Dans le tempo, c'est le 12e épisode. Incroyable, on est parti. On est ravis de vous accueillir dans DLT, le podcast des passionnés de musique, vous commencez à connaître. Toutes les deux semaines, on reçoit un invité pour aborder les différentes facettes de la musique, la richesse de cet univers incroyable. Je dis on parce que je suis pas tout seul, évidemment je serais rien sans l'incroyable Chronomusique,
rien
Michel.
Rien du tout, rien du tout. Comment on dit
Très bien. Alors, je te demande pas comment tu vas, mec, parce que tu vas me dire que ça va pas, le sommeil,
si,
Macron,
maintenant
tout ça.
Ça va. J'ai dormi. Macron toujours, hein. Macron toujours. Explosion, mais le sommeil, ça va mieux.
Tu dors bien, toi, Simon? Ça va?
Non, pas d'habitude, oui, mais là, non.
Et Macron, tu le vis bien, ça va aussi?
Assez mal aussi. Ouais, on peut parler politique et tout, c'est
non,
cool.
Non, c'est bon. Arrêtons-nous là. C'était juste pour la vanne. S'il te plaît, ne partons pas en couille. Non, on va pas se foutre dans la sauce. Vous l'avez reconnu.
Darmanin, démission.
On peut le dire ou pas?
Je pense qu'on peut se permettre de rire, mais que maintenant on va passer à autre chose. C'est juste au cas où. Ne nous mettons pas dans la sauce. Mais vous l'avez reconnu, cet homme extrêmement politisé qui vient de crier un slogan au micro, c'est Simon Delacroix. Simon Delacroix, ouais. Notre invité, a.k.a. The Toxic Avenger.
Ouais. Tu peux y aller, ma mère m'appelle toxique.
C'est vrai?
C'est pas vrai.
Peut-être qu'elle t'appelait toxique avant même que tu t'appelles Toxic Avenger.
Peut-être.
Mais là,
ouais,
c'est pas la même raison.
C'est sur toi la chanson de Britney Spears, alors?
Ouais, exactement, ouais. Ouais.
Ah ouais.
Ouais, c'est une connasse.
C'est réel.
Simon, on a déjà 11 épisodes de DLT derrière nous.
Ouais.
Mais on n'avait encore jamais parlé de musique électronique.
Non.
Et c'est sûr. Et on s'est dit
en surface,
mais très rapidement à bord. Mais jamais on avait fait un épisode un peu dédié ou en tout cas avec un artiste de musique électronique.
Bah c'est
on
cool.
S'est dit qu'il fallait qu'on rattrape ça. Donc on est ravi que tu sois là.
Bah je suis ravi d'être là.
Et en même temps, quand même, le seul truc c'est qu'on a choisi de parler de musique électronique avec le seul mec qui en fait mais qui en écoute pas.
Oui, enfin si j'en écoute un peu, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'écoute le plus. Ouais.
T'es plus limite, t'écoutes plus de disco, de chansons françaises en fait que de musique électronique.
En fait, j'aime tout. Ouais. En ce moment, je suis dans la musique algérienne, tu vois.
Ah. Allez.
Des années 50-60, je trouve ça trop cool. Non, j'aime tout. En fait, tout est cool.
Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que quoi que t'écoutes, t'es quand même une figure de la musique électronique un peu à part. Et parce que je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que t'as quand même une capacité à te renouveler, un peu à traverser l'époque, à multiplier les inspirations. Justement, tu vois, tu viens d'en donner un exemple clair.
Mais sinon, on se fait chier, tu sais.
Je suis assez d'accord, mais c'est justement ce dont on...
Regarde, imagine, ça serait comme si, je sais pas, moi, Christian Clavier faisait toujours un peu le même film. Non, c'est pas le bon exemple.
Ah non, c'est ce qu'il fait, en fait.
Vois, non, voilà. Non, mais oui, non, c'est pour éviter de se faire chier. Sinon, je me fais chier à faire toujours la même chose.
Écoute, justement, refusez les carcans musicaux, prenez comme ça l'éclectisme, se laisser guider par la spontanéité. Tout ça, c'est des trucs qui te définissent. Et bah, c'est ce dont on va parler, tous ces thèmes à aborder. Mais avant de vraiment commencer, il faut quand même qu'on rappelle un peu qui tu es pour ceux éventuellement qui n'auraient pas suivi jusque-là. Et voilà.
Pour les gens nés après 2005.
Ceux-là, par exemple. Mais c'est pas beaucoup de notre public. Hein. Notre public, c'est des boomers de Facebook. Hein.
Non, tu sais quoi, c'est pas vrai, Michel.
Ah oui, non, pardon.
Parce que, non, c'est surtout qu'il y a une évolution en plus sur le podcast, c'est un peu différent. Notre public, on pourrait dire, c'est les 18-35.
Allez!
Michel, s'il te plaît, présente-nous quand même.
Michel.
Toxique.
Alors, Toxique, puisque c'est comme ça qu'on peut t'appeler. Donc, t'es producteur de musique électronique, t'es actif depuis le milieu des années 2000.
Ouais.
T'as été repéré sur MySpace vers 2007 par le label américain iHeart Comics.
C'est ça. Ouais.
Qui t'ont directement proposé de venir vivre à Los Angeles. Donc, tu quittes Paris. Là-bas, tu sors l'EP Super Heroes avec notamment un remix des Bloody Beetroots qui va bien fonctionner.
Ouais, c'est vrai.
Là, donc, ta carrière internationale démarre vraiment, t'enchaînes les concerts, tu rencontres du monde, notamment un débutant qui s'appelle Skrillex, et t'envoies son premier morceau.
Ouais, mais c'est ouf, ça, l'histoire est ouf, je peux te couper.
Ah bah vas-y.
Non, mais l'histoire est ouf, on me présente ce mec qui avait un groupe démo, machin, et qui voulait se mettre à la musique électronique, et qui concrètement m'a dit, mais comment tu fais, moi j'ai Reason, comment tu fais pour faire des sons, tu vois. Des mois se passent, et je vais faire un concert, je crois que c'était... Je sais pas si c'était le South by Southwest ou le truc à Miami de musique électronique, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, et je revois le mec chez Atlantic, chez un mec qui bossait chez Atlantic Records, dans une chambre d'hôtel. Et le mec, il me dit, tiens, j'ai un truc, machin. Et le morceau, ça s'appelait My Name is Skrillex. Et j'ai écouté, j'ai fait, bah, mec, qu'on aime ou qu'on aime pas, là, ce que t'as fait, c'est juste un peu ouf, tu vois. et genre, il lui dit, oh, je sais pas, machin. Et en fait, 6 mois après, c'était ce que c'était, quoi.
C'est incroyable.
Mais vraiment, en 6 mois, le mec a fait, je sais pas comment on fait de la musique électronique, hein, je remplis des stades, c'est ouf. Et une fois, on s'est fait tège. Alors, j'ai une histoire marrante quand même. Une fois, on jouait en Arizona. Tu sais, aux États-Unis, tu as des soirées qui sont plus de 18, où tu peux faire, enfin, tu sais, plus de 18, et des soirées qui sont aussi ouvertes au moins de 18. Celles qui sont ouvertes au moins de 18, évidemment, tu ne peux pas avoir d'alcool dans la salle. Et en tant qu'artiste, tu ne peux pas avoir d'alcool sur scène aussi. Sauf qu'on avait un peu oublié ça avec Skrillex. On jouait ensemble, on a bu un verre, mais un verre, c'est pas abusif, tu vois. On a juste bu un verre, on avait oublié. On s'est fait tèche de notre propre concert, mon pote. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est arrivé, qui nous a sorti de la salle. Et on lui a dit, mais on joue, là, il y a le morceau qui joue, après, il y a plus de musique. Le mec, il a fait, je veux pas le savoir, j'en ai rien à faire.
Ça rigole pas,
on
les amis.
On s'est fait tèche de notre propre concert.
Ah ouais.
Est-ce qu'on peut dire quand même que t'as un peu lancé la carrière de Skrillex, on peut le dire?
Non, absolument pas. Soyons pas, il s'est bien lancé tout seul.
Ah ouais, c'était très très chaud.
Bon, ouais. Ok, tu rencontres Skrillex, mais t'es aux États-Unis, il se passe quoi ensuite?
Attends, mais, j'ai des trucs à lire. Après moi,
laissez-moi lire des trucs.
Voilà. Tu finis par revenir en France et là, donc t'enchaînes les albums, t'en as 5 à ton actif pour l'instant et les EP.
Ouais, ouais, j'en ai 5. Ah bon, j'en ai 5. Okay, ouais, bah, ok.
Ah, je sais pas, c'est ce que ce qu'il y a sur mes fiches.
Merde, je vais regarder, mais oui, si tu le dis, ça doit être vrai.
Bah t'as
mais oui si parce qu'on a groupé une sortie d'EP et ça fait oui ok on va
tu
dire
penses
okay.
À Globe, tu penses à Globe 3
okay. Ouais c'est okay, ça ouais. Tous les Globes ont été groupés ouais. Ok ça marche je valide.
Tu te connectes aussi à Orelsan qui à l'époque n'est pas encore la superstar d'aujourd'hui. Vous sortez un feat qui marche bien
ouais.
Quelques années après vous collaborez sur un film d'animation dont tu fais la BO qui s'appelle Moutafoukaz qui était très 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 cool, très sous-coté à mes yeux. Et tu gagnes un prix pour cette BO. Ouais. C'était très chaud d'ailleurs la BO. Mais je savais pas, jusqu'à maintenant, je savais pas que c'était toi. Et franchement, quand je l'ai vu en salle, je me suis dit, c'est archi chaud.
Bah cool, merci, c'est cool. Ouais, ouais. C'était cool de bosser là-dessus, c'était cool, franchement.
Ah, j'imagine, ouais, ça devait être.
On en parlait tout à l'heure.
En parallèle, t'as des titres qui sont utilisés dans les jeux vidéo, dans un Need for Speed notamment, et puis surtout, Fury.
Ouais, ouais, à part dans Fury, dans des jeux vidéo de gros kékés. Que des trucs de bagnole.
Allez, faut que t'assumes ta musique, hein. Faut que t'assumes ta musique.
Non, bah ouais, mais c'est chiant, c'est moi j'ai envie de faire. Non, Fury c'était cool. Et puis là, j'ai des nouveaux trucs qui vont sortir dans les jeux vidéo. C'est un peu moins castuné.
Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Fury en l'occurrence, tu as vraiment composé pour la BO. Là ouais. Où par exemple, sur du Need for Speed, c'est plutôt on utilise une de tes tracks.
Ouais, carrément, ouais. Ouais.
Et donc dans Fury, t'es à côté de mecs comme Danger, Carpenter Brut, Lorne, etc.
Ouais. Oh, Lorne. Ça fera plaisir à Rinoiser Jérôme qui est un producteur qui fait aussi des vidéos sur notre chaîne et qui est un fan absolu de Lorne et je trouve qu'il a bon goût.
Ouais, c'est très chaud. Et donc là en ce moment donc tu viens de sortir un nouvel EP Shifted.
Ouais.
Tu animes aussi un podcast dédié à la musique qui s'appelle Discorama. Tu fais des lives sur Twitch notamment avec l'équipe e-sport Team Vitality. Donc tu es un e-sportif ?
Non. non, je fais leur musique en fait, toute la musique de enfin une grande partie des musiques des vidéos de la Team Vitality, je fais leur musique.
Et puis t'as parlé même dans des émissions, il me semble avec eux, non ?
Ouais, on a arrêté l'émission mais je faisais une émission avec Gérard Bast des Winkles et avec Céline Tran qui ex Katsuni.
Tout à fait. Et franchement là on vient de voir avec le résumé de Michel. T'as vraiment quand même une carrière étonnante parce qu'on sent justement qu'il y a pas trop de calcul, il y a presque parfois un peu des hasards avec notamment tu pars à LA comme ça. Enfin, c'est pas mal de trucs assez incroyables. Ce que je te propose, c'est qu'on commence la discussion avec peut-être une première partie quand même sur ton rapport à la musique électronique. Parce que comme je te le disais, c'est un peu une lacune qu'on avait dans cette émission jusque-là et j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, notamment parce que toi, je pense que tu as un rapport particulier. Mais déjà, est-ce que tu te revendiques de cette musique? Est-ce que tu qualifies ta musique comme ça, comme de la musique électronique?
Ah bah ouais mais tu sais musique électronique c'est en vrai un terme très con. En fait ça veut juste dire que je fais ma musique avec des instruments électroniques. Mais si tu veux je peux faire n'importe quoi avec ces instruments là. Donc en soi oui, je fais de la musique électronique parce que elle est majoritairement électronique mais et puis après est-ce que je revendique ça? Je revendique pas ça mais en tout cas oui, évidemment que je fais de la musique électronique, je peux pas et à la fois c'est une culture que j'adore, tu vois, c'est juste que dans la vie de tous les jours, est-ce que j'écoute de la grosse techno 12 heures par jour? Non. Non, parce que ça m'emmerde, en fait. Mais, et puis parce que c'est un truc de, je trouve que c'est un truc de lieu aussi. C'est pas un truc que t'écoutes tout seul quand t'es chez Watt et que tu bois une bière parce que ta journée est terminée et que t'as envie de te détendre, tu vois.
Quand tu dis que tu, c'est de la musique électronique parce que tu fais ça avec des instruments électroniques, mais que t'aimes aussi la culture de la musique électronique. C'est quoi pour toi la culture? Il y a un truc qui se dégage de manière générale de la musique électronique, on pourrait même dire des musiques électroniques, parce que c'est tellement varié en fait ce qui peut se produire.
Non, mais j'aime l'histoire de la musique électronique déjà, elle est assez ouf. En vrai, c'est complètement ouf. Je sais pas, j'imagine, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est quand même un truc où d'abord, t'as des Allemands hyper austères qui vont faire de la musique hyper robotique, Kraftwerk pour pas les nommer. Puis ça va se retrouver samplé dans un des premiers morceaux de hip-hop de l'histoire, et tout ça se mélange pour donner la house music au milieu fin des années 80. Tu vois, donc en fait, c'est des gros Allemands hyper stricts qui vont donner naissance à deux genres noirs américains à la base, tu vois. Enfin, c'est quand même assez ouf, hein, tu vois. Je trouve que l'histoire est dingue et que le mélange des cultures est fou. Et puis ouais, ça a donné lieu à tellement de mélanges, tellement de trucs cool que ouais, bien sûr. Et puis surtout, je renie pas du tout la techno et la musique électronique et puis la house, ça, c'est des choses que j'aime bien. C'est juste que dans la vie quotidienne, voilà.
C'est assez limite, quoi.
Non, mais vous écoutez, vous, beaucoup de... C'est quoi vos genres de prédilection? Mon chronomusique, c'est bien sûr tout ce qui est tango musette, mais...
exact.
Mais toi, Salman, c'est quoi ta musique de prédilection?
J'écoute...
T'as pas le droit de dire j'écoute de tout, c'est interdit. Ça, c'est quoi de m'interdire?
Ah, oui, oui.
Non, mais moi, je pense qu'il faut assumer cette position. Après, j'ai clairement des styles que j'écoute beaucoup plus que d'autres, mais objectivement j'écoute beaucoup de choses très variées. De tout, ça serait prétentieux, parce qu'en fait on n'écoute pas tout, personne n'écoute vraiment tout, tu vois, mais j'ai quand même un spectre assez large, mais principalement, honnêtement, j'écoute principalement du rap, du lofi et de la musique électronique, mine de rien, mais de la musique électronique assez chill, moins club, en fait, effectivement.
Bah oui, voilà, alors tu vois, c'est là où en fait il y a plein de musique électronique, c'est trop large, en fait. C'est comme si tu disais de la musique à guitare, tu vois, c'est complètement con. Enfin, t'as de la folk et t'as du black metal. Enfin, tu vois, entre les deux, il y a plein de trucs, quoi.
Donc... Est-ce que vous connaissez la Merkel Wave?
Ah, et encore un nouveau genre? C'est quoi? C'est un truc avec Angela Merkel et de la synthwave?
Exact. Non, c'est du lo-fi avec des samples d'Angela Merkel.
Sérieusement, mais... qui a eu l'idée de faire ça?
C'est légendaire. Il y a une playlist lo-fi Merkel Wave Beats to Relax Get Nothing Done To.
Incroyable.
Pratiquement 2 millions sur YouTube, c'est légendaire.
Non, par contre, tu sais, il y a un truc rigolo, c'est que je parlais de musique de club, je peux moins écouter ça à la maison. Par contre, j'écoute de la musique qui fait danser à la maison. J'écoute du funk, etc. Donc ça, c'est marrant, j'ai pas le même rapport au truc. C'est pas seulement la question, tu vois, que ça fait bouger, et que c'est pas qu'une question de mood, c'est aussi effectivement peut-être de lier ça à des lieux, j'en sais rien.
Ah, mais du funk, bien sûr, du funk à la maison, c'est obligatoire. C'est ça que t'écoutes à la maison, en vrai. C'est ça que tout le monde écoute chez soi, en fait. C'est normal.
Moi, je pense que c'est l'un des styles musicaux ultimes, dans le sens où qui est le plus à même de toucher beaucoup de gens, qui fait bouger les têtes quasiment naturellement. Et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour ça.
En fait, il y a peu de gens qui te disent « Non, vraiment, je peux pas, quoi. »
Bah ouais, je suis assez d'accord.
Il y a des gens que vous détestez, vous? Vraiment un truc où tu dis « Non, ça, franchement, c'est mort. » Moi, c'est le reggae français.
C'est facile, hein, ce compte-là.
Bah, c'est facile, mais c'est la vérité.
oui. Non, mais moi, je crois que globalement, tout ce qui est variété française, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal.
Ah non, il y a tout bien aussi.
Ah ouais, non. Ouais. Mais moi, c'est trop.
Non, mais variété française, encore une fois, il y a.
Ça veut tout rien dire.
Entre ouais. Gainsbourg et Christophe Maé, tu vois.
Ouais, mais même moi, Gainsbourg, ça m'a jamais touché. Tu vois, il y a du.
Ouais, t'es bien peut-être le seul.
Renault plus, tu vois. Mais même, ouais, je crois que c'est l'esthétique de ce truc-là qui me rappelle les horribles longs voyages en voiture avec mes parents, et voilà, quoi, tu vois.
Bah, tu vois, c'est exactement la raison pour laquelle j'aime bien ça.
Ah, ok.
C'est les super souvenirs, mais c'est la daronnerie aussi, hein. C'est
ouais.
Mais ouais. Moi, c'est pour ça que j'aime bien la variété. Mais en fait, mais c'est aussi parce que j'ai découvert qu'il y avait autre chose que les trucs que t'entendais quand tes parents te drivaient effectivement pour aller à Cadaqués en Espagne où t'en pouvais plus. ouais, bien sûr.
C'est j'ai lu dans plusieurs de tes interviews qu'effectivement t'es en recherche d'une certaine nostalgie. Alors tu présentes ça comme une nostalgie heureuse, hein, pas triste, etc. Mais c'est un thème qui est intéressant, celui du rapport aux musiques anciennes, à la nostalgie, à l'esthétique, parce que en plus on le voit bien dans tellement de styles musicaux depuis des décennies presque. Tu sais, on est un peu dans les revivals, dans la nostalgie, etc. C'est un truc de fou. On cherche plus vraiment à faire la musique du futur, ou du moins, la musique, ça, elle serait plutôt rétro-futuriste, tu vois, que réellement futuriste. Et ça, je pense, ça peut être... Peut-être qu'on fera un jour...
C'est quoi la dernière fois que j'ai entendu de la musique futuriste? Ça date du premier album d'un mec qui s'appelle Burial.
Je connais pas.
Écoutez ça, c'est mortel. Mais ça a 10 ans. Mmh. C'est la dernière fois où je me suis dit, tiens, ça, c'est la musique du futur. Et en vrai, c'est toujours la musique du futur quand tu l'écoutes, je trouve.
Ça dépend ce que t'appelles la musique du futur. Qu'est-ce que t'appelles la musique du futur?
Un truc où tu te dis, jamais entendu. Pour moi, c'est ce qui va devenir énorme dans quelques années. Et pourtant, j'ai jamais entendu ce truc-là, quoi.
Ben, moi, en ce moment, c'est assez récent. J'ai découvert un petit rappeur qui s'appelle Joakim.
Ouais.
J-O-A-Q-M. Et genre ces derniers projets, je les trouve vraiment incroyables. En tout cas, peut-être pas le futur de la musique, mais dans le rap, il y a un truc comme ça que je trouve... il est vraiment incroyable. Il a une esthétique très particulière. Et il apporte un truc qui est presque aussi révolutionnaire que Booba quand il est arrivé dans le rap français, avec ces lignes qui ne se prennent que ligne par ligne. Et c'est presque un truc pointilliste où... tu dois pas chercher une logique entre les phrases, mais à la fin t'as un espèce de tableau, et lui il fait un peu pareil mais avec des mots, tu vois, genre à un moment, enfin, genre le texte est tellement déstructuré, particulièrement sur ces derniers trucs, que ouais, je sais pas, ça te met une atmosphère sans forcément que tu captes un propos clair.
Ouais.
Et esthétiquement, je trouve ça trop chaud.
Mis ça dans ma playlist, je vais écouter ça juste après. Ouais. Parce que je suis en recherche à mort, moi, de rap qui change tout, parce qu'en fait, tu sais, moi je trouve que entre genre la trap, après ils nous ont vendu la drill, en fait la drill c'est de la trap sur lequel ils ont juste bougé une caisse claire, en fait.
Ouais, voilà.
Et tu fais, et tout le mec est là genre, putain, c'est ouf, c'est tout fait. Non, vous avez bougé une caisse claire, c'est la même chose.
Non.
Je cherche d'autres choses, quoi.
Ouais, non, mais je suis d'accord.
Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression, enfin, encore une fois, ça mériterait une émission, mais que la notion de rupture, elle est plus si présente. C'est-à-dire que
ça fait longtemps qu'il n'y a pas une rupture. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une vraie rupture.
C'est ça, c'est un vrai genre de rupture, un truc qui se rebelle contre l'ordre établi musical d'un moment, vraiment. Tu sais, qui le prend complètement à contre-courant, ouais. et qui embarque les jeunes, parce que justement, il y a cette excitation du truc qui renverse tout, etc.
Après, c'est peut-être parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais gamin, mais l'avènement de... on appelait ça la dubstep, et puis c'est devenu la brostep. Et justement, pour moi, c'est l'arrivée de Skrillex dans ce game. Skrillex qui a influencé quand même énormément de gens. Et il y a quand même ce truc où vraiment, là, c'est... t'adhères ou t'adhères pas, et c'est du bruit ou de la musique, quoi, tu
ouais.
vois.
Mais clairement il a changé un peu le truc. Mais le pire, c'est qu'en fait il a pas inventé un truc, il a juste on va dire rendu accessible un genre qui existait déjà en
ouais,
Angleterre.
Ouais, ouais.
Pour le rendre un peu plus on va dire américanisant, pour
ouais,
que, pour
voilà,
qu'il le comprenne
ça. Un petit peu fluo avec ouais. des gros vocal chops et tout ça, tu vois. C'était je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui se sont dit, là, non, c'est là, en fait, ça pose la question de ce que c'est la musique, quoi. Tu vois, comme en fait, le métal a pu le faire.
Après, ce que je regrette, en fait, c'est, je pense qu'il y a des esthétiques sonores, tu vois, qui sont originales régulièrement. Il y a plein de gens qui tentent des nouvelles choses, etc. Mais je voyais un truc un peu plus global, tu sais, où c'est un mouvement fort social.
Un truc qui touche la masse.
Social, culturel. Où la sape est importante, l'attitude, des valeurs, un discours, pourquoi pas. Enfin, tu vois, un truc un peu plus. Un peu plus général, tu vois, mais après c'est des moments rares.
Qu'on aime pas, il y a eu quoi? Il y a eu c'est en vrai le new metal à la fin des années 90, un peu, tu vois.
Franchement, il y avait un petit truc, effectivement.
Il y avait
même,
un truc, les jeunes s'habillaient d'une certaine façon, enfin tu vois, la trap après, la French touch avant, voilà, c'est les trois gros trucs.
Ouais, je dirais que l'hyper pop en ce moment, c'est quand même aussi en train d'arriver fort, tu vois.
Quoi, l'hyper pop, les trucs à la Sophie et tout, ça dont tu parles?
Ouais, voilà, 100 Gex.
Ah, 100 Gex, c'est assez ouf pour le coup.
Tu vois?
Ouais.
Et genre, il y a un truc comme ça où, genre, enfin, moi, je me suis abonné à des playlists d'hyperpop et tout ça. Esthétiquement, il y a quand même des trucs qui sont très créatifs et très.
Mais c'est un mashup de plein de trucs. En vrai, c'est pas tout à fait nouveau.
C'est l'époque.
Et 100 Gex, ça vient de, à la limite, en vrai, tu voyais Death Grips, genre?
Ouais, ouais, à fond.
En vrai, ça vient un peu de ça aussi, tu vois.
C'est une version rose bonbon de Death ouais. Grips, un peu, ouais.
Mais et en soi, c'est vrai que c'est pas nouveau, quoi. Y a pas, ça, mais en vrai, j'attends trop ça. Un truc où, en fait, Et même si, comme je suis parti en daronnerie depuis un moment, je pense que je vais le voir arriver, je vais faire « Non, c'est pas pour moi ». Mais en vrai, j'attends ça de ouf quand même, tu vois. J'attends de me prendre une baffe en me disant « Putain, je comprends rien à ce qui se passe, c'est mortel et que ça touche la planète, tu vois ».
Ouais.
Est-ce que toi, Simon, pour revenir un peu à ta carrière, etc., est-ce que tu te sens... Est-ce que t'as l'impression d'avoir contribué à une scène particulière? Est-ce que tu te sens proche de certains artistes, un peu dans la même veine que la tienne? Est-ce qu'il y a... Parce que, mine de rien... Quand toi, ça commence un peu à prendre dans la musique, tu me dis si j'ai une connerie, mais il me semble que c'est aussi le moment où un peu le DM au niveau mondial, ça commence à devenir un phénomène. Il y a un petit switch quand même qui se passe, et tu parles justement de Skrillex après, etc. Est-ce que toi, t'as l'impression d'avoir peut-être même un peu participé à ça, en tant qu'Européen aux États-Unis par exemple? Ou est-ce qu'en tout cas, est-ce que tu as intégré une forme de scène à un moment, à ton avis?
Ouais, mais c'est sûr, mais comme tous les gens qu'on a mis dans des cases, on la rejette un petit peu, c'est normal, tu sais. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, t'auras beau faire de la folk, les mecs te diront toujours alors, ils sont sympas les Bloody Beetroots, donc tu vois. je sais pas, j'étais tellement dedans que j'ai pas l'impression d'avoir participé à quoi que ce soit foncièrement, mais oui, je sais que oui, parce que je croise des gens tous les jours qui me disent que. J'ai accompagné un peu leur scolarité ou les trucs comme ça, tu vois. Et puis ouais, c'était quand même un truc fort à l'époque, il y a Justice tout ça. Et puis en vrai, il s'est passé un truc de fou, c'est que, mais comme beaucoup de ces gens-là, je faisais de la musique dans ma chambre globalement, tu vois. Et d'un coup, on m'a dit bah tiens, tu vas jouer dans ce stade. Tu fais quoi? De stade de quoi? De où? Et t'es aux États-Unis, tu joues dans un stade, t'as des gens qui crient ton truc et tout. Tu fais mais c'est pas possible. Il y a deux mois, j'étais dans ma chambre. Et ça nous est un peu tous tombé sur la gueule. À un moment donné, et en plus c'est très difficile parce que quand tu commences par ça ensuite, quand tu commences par une espèce d'énorme hype, quand la hype redescend, parce que la hype redescend toujours, il faut réussir à te dire bon, maintenant quoi, est-ce que j'essaye d'évoluer machin, et c'est très difficile de commencer par le gros du truc, tu vois, il y a pas ce, et de moins en moins d'ailleurs pour les musiciens, c'est soit ça marche d'un coup tout de suite, soit ça marchera jamais. Il y a pas de j'ai fait des scènes, ça a commencé à prendre un peu, j'ai fait des bons sons, ça maintenant c'est très immédiat, et après faut gérer l'après, quoi, et il faut gérer le faut essayer de durer aujourd'hui, très dur.
Après ça dépend ce que t'appelles le succès, mais il y a plein d'exemples récents d'artistes qui ont mis un temps à péter. Je pense, dans le rap, j'ai trois exemples très concrets de Fris Corleone, Alpha One et Kaba et Jean-Jas dans une autre mesure avec un autre style et tout ça. C'est des types qui ont fait le truc pendant 10 ans.
Mais ça a explosé d'un coup.
Mais ça a explosé parce qu'il y avait une pression, tu sais, genre ce truc de qui monte.
Après, dans le cas d'Alpha One, il y a eu quand même la marche 995 quand même qui a, et en l'occurrence, un 995, ça a été assez vite. Ça veut pas dire que les mecs ils bossaient pas avant, etc. Hein. Mais tu vois, c'est que quand même, il y a eu tout d'un coup une marche franchie de ouf, tu vois.
Oui, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ce discours un peu défaitiste, tu vois, de dire, soit ça marchera, soit ça marche tout de suite, ça marchera jamais. Tu vois, je pense qu'il y a des artistes qui ont fait preuve de patience.
Évidemment qu'il y a des contre-exemples. Évidemment qu'il y a des contre-exemples, mais c'est hyper dur parce que déjà, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, on n'était pas 150 milliards à faire de la musique électronique. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ça, c'est sûr.
En fait, honnêtement, on aurait été dans la situation d'aujourd'hui, à savoir tout le monde fait plus ou moins de la musique chez soi. Tout le monde a un clavier et un ordinateur aujourd'hui. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, je connais quand même beaucoup de gens qui font juste de la musique pour le fun, tu vois. Mm-hmm. On aurait été dans cette situation-là quand j'ai commencé. Je vais le dire très honnêtement, je suis pas sûr j'aurais peut-être pas jamais fait carrière parce que ça se bousculait pas tant que ça. Donc en fait, j'étais une proposition, mais il n'y en avait pas 150 000 à côté aujourd'hui. Prenons l'exemple du rap, faut quand même se faire de la place, quoi. Il y a quand même beaucoup d'appelés et très 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 peu d'élus, quoi.
À fond.
Quand tu pars aux États-Unis, tu penses qu'on te prend parce que il y a un son particulier que t'amènes?
Ouais, parce que je faisais n'importe quoi. Ouais. J'avais du matos de merde. En fait, l'histoire, c'est j'avais du matos de merde concrètement. Hein. Moi, je voulais faire Daft Punk, en gros, tu vois, parce que je trouvais ça fun. J'avais du matos de merde, j'arrivais pas à faire Daft Punk. Du coup, moi qui étais guitariste, j'ai enclenché mes pédales de disto une par une, tu vois. Je les ai mis sur ma synthé, j'ai fait, oh, tiens, marrant, le son est marrant. Puis j'ai fait, tu vois, juste voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. J'ai poussé les curseurs au max et en fait, ça m'a. Je crois que ça marche toujours de pousser les curseurs au max quand t'es personne, de dire, allez, vous avez vu ce que vous faites, je vais le faire, mais en dix fois plus, quoi. Et du coup, ça a marché comme ça parce que j'avais poussé tous les curseurs à fond.
Et ta culture rock aussi devait jouer, tu le disais toi-même, tu jouais, ouais. T'étais guitariste à la base, t'utilisais les pédales de disto, etc. Il y avait ce son un peu rendant ta gueule, quoi, au début.
C'était
quand même
cette époque où la communauté rock commençait à s'intéresser commençait à aller en club, en fait. Parce qu'il y avait eu, un genre qui s'appelait l'électroclash, je sais pas si vous vous souvenez de ça, les trucs, voilà, c'est début des années 2000, c'est un genre qui était un peu mi-électronique, mi-revival, un peu cold wave, new wave, machin. Okay. Justice commençait à arriver aussi, c'était beaucoup plus rock, l'attitude était plus rock en fait, et on se dit tiens, c'est marrant, c'est pas mal et tout. Et puis il y avait c'était ça. Moi je viens du rock et du rap en même temps, et il y avait un peu de tout ça là-dedans, c'était un peu thug le truc, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça où la musique électronique, elle était pas juste un truc de genre maniéré avec des jolies mèches et qui dansait comme ça, ça devenait un truc un peu sale qui sentait la sueur, et c'est ce qu'il me fallait pour m'intéresser au genre, quoi.
Et aux États-Unis, comment est-ce que tu sens qu'ensuite qu'il y a un son qui commence à être un peu comme le tien, d'autres gens qui font un peu la même chose, est-ce que tu vois que ça se répand, que ça devient un peu plus grand public petit à petit
Ouais, en fait le label qui m'a signé faisait des soirées dans un lieu qui s'appelle Ecoplex à Los Angeles, qui est un assez grand lieu, avec le patron de mon label, c'était associé avec Steve Aoki à l'époque, tout au début. Donc voilà, ils faisaient venir plein de gens, et le truc a comme, et ils ont fait venir Justice aussi, mais qui était petit encore. Les Américains comprenaient, mais pas vraiment. En fait, c'est vraiment Skrillex qui a poussé le truc. Moi, je suis quand même arrivé genre un ou deux ans à Los Angeles avant que Skrillex ça explose. Et au début, ils comprenaient pas vraiment ce qui se passait, quoi. On était amalgamés avec plein de choses qui étaient plus rock, ou, enfin, c'était très bizarre, mais c'est Skrillex qui a vraiment, ouais, je dois le dire, hein, qui a vraiment mis, et le live des Daft Punk aussi, le concert des Daft Punk qui a un peu, d'ailleurs, c'est eux qui ont imposé ce standard de gros concerts DJ EDM avec des lumières partout, finalement, avant eux, voilà, c'est eux qui ont vraiment imposé ce standard-là.
Et toi, justement, comment tu juges aujourd'hui avec le recul et surtout avec la situation actuelle aussi, justement ce mouvement un peu qu'on peut appeler l'EDM aujourd'hui, ce côté musique électronique très entertainment, très grand public, etc.
Si ça amuse les gens, c'est cool. Les trucs à la Tomorrowland et tout là, ça me fait un peu de peine. Parce qu'en fait, nous à la base, c'était fait avec 3 francs 6 sous. Il y avait pas une débauche de ouf. On avait une attitude un peu punk rock sur scène. C'était des trucs vraiment de. S'il y avait pas de calcul en fait, c'était pas calculé du tout. Donc ouais, en vrai, les trucs à la Tomorrowland me font un peu de peine de voir où ça en est arrivé, et à la fois. Ça amuse les gens, qu'ils aillent s'amuser, que c'est cool, quoi. Et en même temps, il reste toujours des trucs un peu cool dans ces domaines-là. Tout ce que fait Diplo et tout, je trouve quand même ça cool. Diplo a beaucoup fait aussi pour la musique électronique aux États-Unis. On s'en rend peut-être pas forcément compte d'ici, en fait, mais il a fait beaucoup pour la musique électronique aux États-Unis, Diplo.
Et toi, tu penses personnellement avoir ouvert la voie à certains artistes?
Non, je pense pas. Ou alors, faut me le dire. Mais non, je pense pas. Après. J'en sais rien. J'ai sûrement donné envie à des gens de faire de la musique, ça, oui. Comme moi, il y a des gens qui m'ont donné envie de faire de la musique. Mais ça serait immodeste de dire que j'ai lancé des trucs. Maintenant, quand je suis parti aux États-Unis, on n'était pas beaucoup à partir aux États-Unis. Enfin, des artistes français à jouer aux États-Unis, c'est con, mais on n'était pas à des masses, quoi. C'est pas moi qui ai ouvert la voie, mais à ce moment-là, on était plusieurs comme ça. Tout est de banger aussi, partait beaucoup, on se retrouvait beaucoup. À jouer aux États-Unis et ouais, c'était le petit clan des Français, ouais.
C'est parce que c'est une époque un peu charnière quand même, tout ça, mine de rien.
Ouais,
pour ce qui est devenu la scène électronique aujourd'hui, quoi. Enfin, une partie de cette scène en tout cas.
Ouais, bien sûr.
Justement, peut-être un peu plus sur ta musique en tant que telle. Je me suis écouté hier Super Heroes, donc qui est ton premier EP.
Waouh, putain, ça a mal vieilli, c'est chaud. Hein.
Ensuite, alors j'avais déjà écouté Angst et Romance and Cigarette, tes deux premiers albums à l'époque de leur sortie. Et j'ai enchaîné hier donc avec Midnight Resistance, qui est ton dernier album, et l'EP là qui vient juste de sortir, puisque tu sors donc un EP en ce moment, Shifted.
Ouais.
Mine de rien, ça. Je dirais pas que ça n'a plus rien à voir parce qu'il y a un fil conducteur, mais on n'est plus dans le même son, on n'est plus dans la même volonté de tu racontes plus la même chose, franchement.
Mais c'est ce que je te disais. Quand mon premier morceau, les Super Heroes, etc., c'était vraiment genre, j'avais mon clavier de merde qui sonnait pas bien, j'ai mis mes pédales dessus, j'ai fait mon truc, et on m'a dit, bah, c'est mortel, tu viens aux États-Unis, puis on va tourner. Je fais, ok. Tu vois. Et il y a enfin, en vrai, j'ai appris à faire de la musique que j'aimais, et la musique que j'ai appris à faire de la musique en même temps que je sortais des disques. Ça m'est vraiment tombé sur le coin de la gueule, tu vois. C'est pas, voilà, il y a zéro calcul. Et puis, on m'a dit, on sort ton truc, viens. Et puis, entre temps, j'ai appris doucement à faire de la musique. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que la musique que je fais aujourd'hui, elle me ressemble plus que celle que je faisais il y a 15 ans, parce que je la faisais vraiment sans calculer. Là, j'ai envie de faire quelque chose, j'y arrive. Je suis pas un musicien hors pair du tout, moi. J'ai eu besoin de prendre le temps. Pour apprendre, quoi.
Mais après, t'as apprendre à faire de la musique et t'as apprendre à être artiste. Et je pense que tous les artistes apprennent à être artiste en étant artiste, donc en sortant des disques et en faisant de la scène et en faisant tout ça. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup d'autodidactes ou d'internet-autodidactes qui apprennent la musique au fur et à mesure qu'ils en font. Ils sortent des trucs, ils trouvent ça chaud et puis 2 ans après, ils trouvent ça nul et ils font autre chose.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est cool, ça. C'est cool. Moi, je trouve ça très bien. Ouais, et surtout, aussi. Je trouve ça très bien que la musique devienne accessible à tous, en vrai. C'était,
à fond.
Tu sais, j'ai un souvenir. J'ai commencé à trifouiller des synthés il y a quand même assez longtemps. J'avais un groupe de rock, mais en parallèle, je m'intéressais quand même aux synthés. Je trouvais ça cool et tout. Et il n'y avait pas Internet encore, vraiment. Je te parle d'une époque où il n'y avait pas Internet pour se renseigner. Ça, on parle de avant, il y a 20 ans. Ouais. Et je me souviens d'avoir appelé Stars Music, Thoman, enfin un magasin de musique, pour leur dire que moi j'étais guitariste et que je trouvais les synthés cool, mais je voulais la même chose avec une guitare, quoi. Je voulais une guitare MIDI. À l'époque, ça existait pas du tout. Le mec m'a rigolé à la gueule. Tu sais, en fait, on savait pas du tout comment faire ça, quoi. Donc j'ai acheté du matos, c'est un peu sans savoir. Je me rappelle avoir acheté une MPC, je crois que c'était une 2000 XL, les grosses MPC blanches, avec lesquelles, je faisais plein de trucs et tout, mais et puis. Enfin, j'ai eu plein de matos comme ça où je savais même pas m'en servir. Enfin, tu sais, vraiment, t'apprenais sur le tas, quoi. Aujourd'hui, c'est cool parce qu'en fait, tu veux commencer à faire de la musique, t'as 15 000 vidéos qui t'apprennent à te servir d'un logiciel, qui t'apprennent même les bases de la théorie musicale. Mais moi, j'aurais eu ces vidéos YouTube il y a 20 ans, mais j'aurais été rincé, tu vois.
Ah oui, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on n'a plus vraiment de grosses ruptures et que tout commence à plus se synthétiser. C'est parce qu'on a tellement de sources. Sur, tu te demandes comment on fait un style, pouf, tu tapes tuto, électro, je sais pas quoi, et puis on te donne des codes qui sont un peu des clichés. D'ailleurs, je participe à ce truc-là, moi, j'ai une chaîne YouTube qui parle de ça, tu vois. Mais donc, du coup, t'as ce truc où t'es moins confronté à un mur comme tu peux l'être quand t'as pas du tout de source et tout ça, et du coup, t'as moins de murs à défoncer, simplement, je pense.
Spotify aussi, ça aide beaucoup au mélange des genres, tu sais. Enfin, ouais. Encore une fois, quand j'étais ado, moi, en fait, t'écoutais du rap, t'écoutais du rock, ou t'écoutais de la techno. En fait, il y avait pas de mélange, quoi.
Ouais, ouais.
Nous, avec mes potes, on écoutait un peu de tout et on était des ouf. Tu vois, on regardait genre, vous êtes de quoi. Et en fait, aujourd'hui, enfin, en vrai, sur t'allumes Spotify, tu vas tomber sur un morceau de rap que tu vas kiffer. Tu sais même pas qui c'est. En fait, maintenant, c'est ça qui est ouf aussi, c'est que t'écoutes des trucs, c'est même plus qui sont les gens. Puis tu vas écouter un autre morceau d'un autre genre et ça va te faire kiffer aussi. Et c'est aussi vachement facile d'accéder à tout. Pareil, moi j'aurais eu Spotify il y a 20 ans, j'aurais été rincé, j'avais tout.
Après, il y a quand même, tu sais, un peu un double effet, c'est-à-dire que je suis d'accord que les cloisons, tu vois, globalement, elles ont explosé. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai vécu cette époque où j'étais au collège et où t'avais des clans, et où, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais un truc qui me faisait terriblement mal parce que j'aimais ces deux styles musicaux, c'est qu'en gros, on va en aller dire que le rock, c'est un truc de blanc et que le rap, c'était un truc de noir et d'arabe. C'était aussi cliché que ça, tu vois.
Ouais, bien sûr que oui.
Et c'était un truc terrible. Heureusement, tu vois, parfois, il faut aussi se féliciter de l'évolution des choses.
Bien sûr.
On est passé quand même à une autre étape.
On a gagné, Salman, on a gagné.
Putain.
Nous, les Noirs et les Arabes.
Non, et tout le monde a gagné, parce que putain, t'as le droit d'écouter ce que tu veux, quoi.
Je me suis trompé.
Non, mais et par contre, là où je voulais juste mettre un tout petit bémol, c'est oui, Spotify, ça t'ouvre le champ des possibles, etc. C'est une évidence, mais on se retrouve dans une autre problématique que celle d'auparavant, qui est la curation, l'éditorialisation, être accompagné pour la découverte, etc. Parce que si tu te reposes que sur l'algorithme, putain, tu vas pas très très loin en
oui,
réalité.
Oui, mais de la même manière que si tu te limitais à ce qu'il y avait en tête de gondole chez un disquaire, t'allais pas beaucoup plus loin. Non plus, quoi.
Je suis d'accord, mais en même temps, tu avais ce rapport éventuellement humain, tu vois, du mec qui pouvait te filer les trucs. Moi, je me rappelle dans la cour de l'école, ça se fait certainement encore, tu vois, mais on s'échangeait des choses, etc. Mais la différence, c'est la profusion, en fait, d'aujourd'hui, et qui complique la tâche, si tu veux, d'accompagnement comme ça pour éventuellement découvrir des choses.
Spotify, pour parler d'eux en particulier, il y a quand même un truc qui est ouf, c'est leur playlist. Ils ont une playlist qui s'appelle, attends, bouge pas, Découverte de la semaine, je crois.
Alors, c'est parce que moi, j'utilise à la fois Radar des sorties et Découverte de la semaine. Je sais plus laquelle est basée sur ce que t'aimes déjà et te propose.
C'est le Radar des sorties.
C'est le Radar des sorties, ouais. C'est ça. Et t'es sûr qu'il n'y a pas d'éditorialisation humaine derrière le...
Dans Découverte de la semaine?
Ouais.
Vu ce qu'il me propose cette semaine, par exemple, je te jure que non.
Ok.
Je te jure que non. Non, mais celle-là, pour le coup, je trouve ça assez ouf, l'algo. Je le trouve vraiment assez incroyable. Mais oui, t'as raison. Si tu mets Spotify en lecture aléatoire et une fois que t'as fini ta playlist, évidemment que si t'écoutes PNL, on va te proposer Jaja et Dinaz après. Tu vois, c'est normal.
J'ai vu plusieurs trucs là, ces derniers temps comme ça sur le fait qu'il faut apprendre à nourrir son algorithme et qu'en fait et que d'abord ça demande un effort, c'est-à-dire que sciemment tu donnes à bouffer à ton algorithme des choses pour qu'ensuite ça te ressemble et que ça t'ouvre aussi, tu vois, à des possibilités.
Rappelons qu'il y a une fonction j'aime pas sur Spotify, et ouais. Si t'aimes pas tu peux virer, si t'aimes tu peux lui dire que tu aimes, et c'est intéressant, ça amène à des trucs cool. Moi en ce moment on me propose que du funk on va dire libanais ou égyptien, parce que
écouter Habibi Funk
mais bien sûr
ça.
Que oui. Et je découvre un monde que je connaissais un peu parce que je m'y intéressais un peu, mais je découvre des trucs que je connaissais pas qui sont ouf. Et et d'ailleurs tu regardes bien, si tu mets une émission comme Quotidien, c'est con hein, écoute tous leurs choix sonores pour les jingles machin, c'est que des trucs comme ça, que des trucs que de digger incroyables, que des trucs de Habibi Funk et des machins. Ou du French Boogie, tu vois, enfin un genre qui revient d'outre-tombe, c'est quand même du proto-rap français du début des années 80. Bah t'en as plein dans une émission comme Quotidien, alors que, et c'est Spotify qui fait ça, c'est Spotify qui a fait ressortir ces trucs là. Donc non, cool Spotify, envoyez de l'argent.
Dis-moi, on parlait de tes multiples influences, etc., de ton rapport à la musique électronique. Est-ce que tu penses justement parce qu'il est protéiforme, etc., que plus peut-être encore que d'autres genres, que la musique électronique, c'est un truc à même de récupérer, de faire de l'éponge, de pas fourre-tout, parce que ce serait un peu péjoratif de dire fourre-tout, mais accueillant, tu vois, un truc comme ça. De...
Ouais. Et puis tu sais, c'est con, mais il y a un truc qui rejoint la musique électronique, le rap et quelques genres comme ça, c'est qu'on est aussi un peu tributaire de la technologie. En fait, la musique, elle évolue avec la technologie, c'est con, mais la trap, elle aurait pas pu exister il y a 20 ou 30 ans parce que bah, les écoutes n'étaient pas faites pour avoir autant de subs, tout bêtement, quoi. Enfin, on n'aurait jamais entendu ces trucs-là, quoi. Et en fait, c'est vraiment des genres qui bougent avec la technologie, et c'est hyper intéressant parce que bah, vraiment, tous ces genres n'auraient pas pu avoir lieu il y a longtemps, quoi.
C'est marrant parce que dans l'histoire de la musique de manière générale, de toute façon, les outils qu'on utilise et donc la technologie a toujours été essentielle. Peut-être que la différence, c'est que là, il y a eu une accélération et surtout, on est devenu une société ultra technologique. Donc effectivement,
ouais,
ça se répercute sur la musique.
Et puis ça bouge toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs qui sortent quand tu fais de la musique électronique ou quand tu fais de la musique avec des outils électroniques. Toutes les semaines, il y a des trucs qui sortent, des logiciels de ouf, des Max for Life pour quand tu utilises Ableton, des trucs incroyables que... Enfin, tu vois, par exemple, moi, j'utilise beaucoup la synthèse granulaire qui va prendre dans ton sample un tout petit bout de sample pour créer un son, une forme d'onde. C'est tout con, mais je fais des basses avec des mots que je dis dans mon micro, tu vois. Enfin, c'est aussi bête que ça, mais j'adore ce genre d'outils. Et alors, c'est pas un truc qu'il a à dire, la synthèse granulaire, mais c'est des trucs qui sont maintenant hyper accessibles. Non, le fait que ça bouge avec la technologie, le fait que la technologie, elle bouge beaucoup, c'est sûr que ça change tout le temps, quoi. Et c'est hyper cool. À la fois j'ai un discours d'aronade pour beaucoup de trucs. À la fois sur la technologie, c'est ouf. Parce que voilà. Et puis la complexité des choses que tu peux faire avec. Regarde, il y a un Mac M1 qui est sorti il y a pas longtemps, mais tu peux avec ça, ça coûte pas grand chose foncièrement par rapport à ce que coûte un Mac d'habitude, mais avec ça, tu peux faire. Laisse tomber, tu peux avoir 18 Rhodes sur. Enfin, c'est ouf, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à faire de la musique, quand je voulais mettre un effet, il fallait que je le précalcule et que je le bounce sur ma piste, tu vois. Voilà, c'est génial, quoi.
Et comment tu fais pour justement rester à l'affût, tu vois, de cet aspect ultra technologique, des nouveaux outils, etc. Et en même temps, mêler à ça toutes tes inspirations. Parle-nous un peu de tes grandes inspirations, tu vois, qu'est-ce que t'écoutes quand t'es à la maison, etc. Et comment, après, tu bouffes ça, tu le digères et t'arrives à le refoutre avec les outils technologiques dont tu parles, etc. Est-ce que ça se passe réellement comme ça ou tu...
Ce que j'écoute transparaît pas dans ma musique du tout.
C'est vrai.
Enfin, si, les prochains trucs, si, parce que je me suis dit, maintenant, ça suffit de faire de la musique où, en fait, enfin, d'écouter la musique et de pas faire la musique que t'écoutes, quoi. Donc là, je me suis donné comme objectif de bosser avec des gens que j'écoute pour mes prochains EP. Tu vois, par exemple, je suis fasciné par un groupe algérien, mais qui habite en France maintenant, qui s'appelle Rainarai, qui est un groupe de rail des années 80 où le guitariste s'appelle Lotfi et considéré comme le Santana algérien. c'est genre un mec génial et leur son est ouf. Et je me suis dit, mais en fait, t'écoutes ça tout le temps, pourquoi tu lui dis pas de venir bosser sur ton disque? On verra bien ce que le mélange fait, tu vois. Et ça fait plusieurs fois, en fait, je me dis, mais en fait, t'écoutes quasi que de la musique algérienne chez Watt. Parce que ma mère en écoutait beaucoup quand j'étais jeune, et du coup, tu sais, c'est con, mais tu récupères les disques et tu dis, putain, mais c'était ouf, ça, et tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, maintenant, tu vas essayer de bosser avec ces gens-là, tu vas voir ce qui en sort, quoi. Parce que voilà, après, ce que j'écoute, c'est moi, c'est surtout ça, en fait. C'est du rail, beaucoup de rail. Beaucoup de Gnawa. Mm-hmm. Beaucoup de ces trucs-là, je trouve ça ouf, la richesse du truc. Parfois les trucs presque un peu proto-techno, parce que c'était parfois de la musique de trance, donc très répétitive, etc., qui m'intéresse vachement, moi. Et puis surtout, je sais pas, je trouve ça génial. Ça me fascine.
Et t'as des phases, tu fonctionnes un peu par phase de trucs que t'as.
Ah ouais, de ouf.
Ouais.
De ouf. Bah, j'ai eu une grosse phase Cosma l'année dernière, j'écoutais que Cosma, quasiment tout le temps.
Légendaire.
Mais de ouf. Enfin, tout est incroyable chez Cosma. J'écoute encore beaucoup et tout. Mais ça, par exemple, tu l'entends pas du tout dans ma musique. Et ça m'emmerde parce que je trouve ça trop beau, tu vois. Donc j'aimerais bien quoi, de l'entendre dans ma musique, qu'on entende un petit peu ce truc-là dans ma musique. Mais
c'est marrant. Ta carrière a à peu près 15 ans de carrière, en gros. C'est maintenant que tu te dis, putain, il faut que je fasse de la musique que j'aime écouter. Enfin,
pas que j'aime écouter, mais il faut que je fasse intervenir les choses qui sont extérieures à la musique électronique dans ma musique. Mmh. Tu vois, juste, parce que sincèrement, j'adore les Daft. J'adore le premier album des Daft. Pour moi, c'est un espèce de maître étalon de ouf, le premier album. Mmh. Plus que les autres. Mais c'est juste que je me dis, mais en fait, c'est pas parce que c'est du rail et que, ou que c'est de la musique de film à la Cosma, un peu machin, que tu peux pas intégrer un peu ça dans ta musique. Et aussi parce qu'à l'époque, je ne savais pas comment intégrer ça dans ma musique. J'ai pris, au fur et à mesure du temps, un peu d'expérience, un peu de skills dans la composition. Et du coup, maintenant, je pense que je saurais gérer ça. Et puis, je saurais même juste, c'est con, mais interagir avec d'autres musiciens. Quand t'apprends à faire du ski, t'es content d'être sur ta petite piste verte où il y a personne. Puis au fur et à mesure, t'es content d'aller sur une piste un peu plus pentue. Puis après, ça te dérange pas qu'il y ait des gens qui skient autour de toi. Bah là, c'est un peu la même. C'est con comme comparaison. C'est extrêmement con, mais c'est ça que je veux dire. C'est aujourd'hui, je me sentirais confiant de co-composer des choses. Ça me fait pas peur. Alors qu'à l'époque, je me serais retrouvé très con à dire. Le mec m'aurait dit fais un do. Je lui aurais dit do, c'est-à-dire la note. Ouais. Voilà. Donc ouais, il faut un peu de confiance. Moi, il me fallait un peu de confiance pour penser à partager ça avec d'autres.
Ouais, je pense que c'est le cas de beaucoup d'autodidactes qui ont peur de pas parler le même langage que les autres, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ce genre de collab.
Ouais, bien sûr. Surtout comme ça avec des mecs qui ont appris la musique de façon beaucoup plus classique. Ce qui est le cas des gens avec qui j'ai envie de travailler. Je voulais pas me retrouver comme un con à pas comprendre ce qu'on me disait.
Et tu penses que potentiellement tu peux tout intégrer dans ta musique?
Grave, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est beau. Il n'y a vraiment pas de limite. Et j'ai envie de te dire, on verra si ça plaît, et puis si ça plaît pas, c'est pas grave. Mais moi, ouais, ça m'a fait kiffer, quoi. Tu vois, j'ai un regret de ouf. J'ai peu d'idoles, vraiment. Cosma en est une, mais Rachid Tahar en est une aussi. Pour beaucoup, beaucoup de raisons. Je trouve que... D'abord parce que... on a arrêté, c'est lui qui a fait qu'à un moment donné, on a arrêté de dire, tu fais de la musique arabe. tu vois. Il faisait juste de la musique, en fait. On a complètement dissocié. Parce qu'en fait, il y a un moment en France, dès que c'était un Algérien qui faisait de la musique, on disait, bah, toi, tu fais du rail. Et lui disait, bah, moi, non, en fait, je fais du rock. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Et quand il est mort, j'ai beaucoup regretté parce que j'ai eu 15 000 occasions de contacter ce mec-là et je l'ai jamais fait. Donc maintenant, je me dis, allez, maintenant on le fait et puis on verra bien. Tant pis si ça plaît pas, quoi.
Ton roster idéal, genre, tu peux avoir, tu vois, 4-5 mecs comme ça, là, tu nous les cites sur ton album.
Ah bah, Cosmata, mais bon, après, ça c'est sûr. si, alors attends, tu sais quoi, je vais aller dans mes playlists Spotify parce que je vais essayer de te donner des trucs qu'on passe 107 ans ou des gens qui sont pas morts encore. Parce qu'il y en a, si, j'ai bien aimé, il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle Achille. Ouais. Que j'aime bien.
Ah, je connais pas du tout.
Que je trouve cool. C'est un petit mec qui a un physique d'expert comptable, mais qui fait du rap.
Tout à fait.
Je trouve ça mignon et tout. Et j'aime bien un mec qui s'appelle Chassol aussi.
Ça, je connais pas.
Chassol, c'est ouf. Mais c'est absolument incroyable.
Ça s'écrit comment?
Chassol, Chassol. Il a fait un morceau qui s'appelle Birds Part 1, par exemple. Ouais. Où en fait, c'est juste, il a pris le. Il est parti genre en Inde, il est parti dans plein d'endroits, il a pris des sons d'oiseaux. Et il a construit de la musique autour de ces sons d'oiseaux, par exemple. Et c'est assez ouf. Mais après, voilà, il y a franchement, j'ai envie de faire de la musique avec plein de gens maintenant que je me suis retenu d'en faire avec des gens. Plein de gens. Et malheureusement, c'est souvent des gens que je redécouvre un peu tard. J'ai redécouvert Fab tardivement.
Ouais.
C'est con, hein, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que ça aurait du sens et tout? Mais voilà, par exemple, un mec comme Fab, j'ai découvert ça trop tard, quoi.
Après, c'est la beauté de la musique, c'est qu'en fait, c'est un puissant fond et que sans cesse tu redécouvres ou tu découvres complètement de nouveaux trucs, ouais. ça t'excite à nouveau. C'est ce qui fait que c'est riche et que c'est passionnant, quoi. Heureusement qu'il y a ça aussi.
Ouais. Bien sûr que oui. Et puis, alors, tu sais, toute cette mode aussi de l'espèce de funk, de virtuose américaine, là, à la, comment ça s'appelle ça?
À la Vivek, etc. Bien sûr.
Évidemment, ça, tu vois, bosser avec des mecs comme ça, c'est ouf. Il y a des mecs que j'ai adoré. Comment ils s'appellent? Ice Peak. Eux, c'est assez ouf ce qu'ils font. C'est une espèce de Death Grips russe, en fait. En gros, voilà. Donc c'est une espèce de 100 Gecs russe. C'est chiant à dire.
Ouais.
Je les aime beaucoup. Puis je suis d'origine russe, donc quand je peux faire un petit clin d'œil à la Russie, je le fais. Mais j'aime bien quand tu vois quand les potards sont poussés un peu à fond, c'est toujours un peu cool.
Ouais, à fond. J'aime bien.
Voilà. Et puis après, en vrai, tu veux que je te dise, en ce moment, en dehors de la musique algérienne, j'écoute vachement de French Bossa Nova, de la vieille Bossa Nova française des années 60. Voilà, je trouve ça ouf aussi. Ouais. Voilà. Tellement de choses.
Comment tu découvres tes nouvelles musiques?
Spotify. Non, il y a des labels que je suis aussi qui font des rééditions de ouf. Il y a un label qui s'appelle Born Bad, qui sort des compiles de rééditions qui sont souvent assez folle. Là, par exemple, ils ont sorti un truc sur Henri Salvador qui est ouf et où j'ai découvert qu'en fait, Henri Salvador, dans les années fin 60, je crois, il a dit « Ouais, mais moi, les studios, ça m'emmerde, je vais faire un studio chez moi. » Fin des années 60. Et du coup, il s'est mis à utiliser des boîtes à rythme, plein de trucs et tout. Et ce qu'il fait, ce que j'ai entendu est juste incroyablement moderne, quoi. Voilà. Dès que je me rends compte qu'il y a un pan de la musique que je connaissais pas, alors que je m'intéresse beaucoup, ça me plaît. Et Born Bad sort des trucs de ouf comme ça. Ouais.
Moi, je suis Division Recordings, donc le label de Noisia,
ouais.
Où ils sortent vraiment. Enfin, moi, c'est. Je crois que c'est la partie de la musique électronique que je préfère. Là, le dernier que je m'étais pris, c'était Former, qui fait. Un EP qui s'appelle Edge Mecha, qui a déjà 3 ans, je pense, un truc comme ça, mais les sonorités, je les trouvais incroyables. T'as vraiment des trucs qui sont à mi-chemin entre, je sais pas, de la voix et du robotique, quoi, mais je sais pas comment dire, il y a des textures très particulières sur les manières de, enfin, sur les voix, il y avait des textures vraiment hyper cheloues. J'ai trop aimé ce truc-là. Ils avaient fait un feat, justement, Noisia et Former qui s'appelait Pleasure Model.
Ouais, je vois Former, là, ouais. Je vais mettre ça de côté.
Non, franchement, incroyable. Et globalement, moi, je trouve ce qui sort de chez Division, c'est vraiment. Après, il y a clairement beaucoup plus de sound design que de musicalité, tu vois. Mais je crois que c'est ce que je préfère.
Ah, mais oui, il y a des trucs comme ça chez un mec qui s'appelle Alan Moore. Ça vous dit quelque chose?
Ah, ça me dit un truc.
A-L-O-N-M-O-R. Pareil, c'est genre, il y a des morceaux, tu dis, ouais, là, est-ce qu'on est dans de la musique vraiment? Est-ce qu'on est dans du sound design? Tu sais, c'est ce genre de mecs qui font des morceaux à genre 45 BPM où t'as genre une grosse caisse, une caisse claire là, et entre les deux, t'as genre des bruits de papier mâché, des trucs comme
ouais, tu fais,
ok. Mais c'est intéressant. Ouais, écoutez, je trouve ça hyper intéressant.
À fond. Et en plus accessible, moi, il y a Sunlux que je trouve incroyable.
Ouais.
Brighter Wounds. Il y a une track dedans qui s'appelle Dream State qui est incroyable avec il y a un truc avec une gestion du sidechain et t'as des samples d'instruments avant, tu vois, qui font comme ça, tu vois, et qui suivent le mouvement de la voix, tu vois. Et donc c'est au lieu d'être, enfin, tu sais, c'est un sidechain inversé, quoi.
C'est quoi le morceau, tu dis?
Expander Dream State, il s'appelle. Et je le trouve vraiment incroyable, ce truc-là. Il y a des idées de sound design que je trouve très cool et ils aiment bien. J'avais un pote à moi qui avait pas mal parlé avec je crois que c'était le drummer qui produit pas mal des trucs et qui parlait notamment des VST qu'ils utilisaient. Et il disait qu'il aimait bien utiliser des trucs de type clavecin, tu vois, les trucs de chez Sony Couture, tu vois, des VST un peu de niche comme ça. Et d'essayer de les synthétiser, d'en faire des instruments synthétiques à partir d'instruments genre des cornemuses, des trucs comme ça, tu vois, et ça leur donne une texture très particulière, je trouve, j'aime beaucoup. Et puis en plus, ben, t'as de la voix, le type il a une voix très facilement reconnaissable, donc ça peut aussi toucher un public assez large.
Mais je sais pas toi, mais moi j'ai ce truc là, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment ce truc là, parfois j'ai des énormes jalousies, tu sais, des fois j'écoute des trucs, je me dis ah, putain, mais oui, mais évidemment c'était évident, et pourquoi je l'ai pas fait.
Ouais, à fond.
Vraiment, des fois j'écoute des trucs, je suis deg, j'arrive pas à montrer que je suis pas deg, je suis vraiment deg. typiquement quand 13 est arrivé, je pense que vous voyez qui c'est, Rez. Je me suis dit, oui, en fait, évidemment qu'il fallait faire ça. C'est évident qu'il fallait faire ça. C'était la suite logique de tout. Pourquoi tu l'as pas fait? Et parce que t'es trop con, en fait. Voilà.
Ouais, il y en a, ils ont des petits éclairs de génie. Et ça, c'est ça qui est incroyable. C'est quand ça paraît évident une fois que c'est fait, quoi. Ouais. Et que c'est eux qui l'ont fait.
Et puis, une façon, je pense que c'est un peu ta réflexion, une façon justement d'arriver toi à faire ton truc, à te dire allez, moi je vais le faire et d'autres l'auront pas fait, c'est justement en piochant dans tes influences, etc., en faisant appel au guitariste, l'autre fille dont tu nous parlais, etc., et peut-être que ça va donner un truc inédit, parce que peut-être qu'on lui a jamais proposé de faire ça, l'autre fille, tu vois, je sais pas.
Alors non, ça c'est sûr que non, mais et c'est ça qui est ouf en plus, c'est que particulièrement chez les légendes de la musique algérienne, il y a vraiment chez les légendes, quoi, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus, et en plus j'ai fait un podcast là-dessus sur la musique, sur les ponts entre musique française et musique algérienne il y a quelques jours, et en fait j'ai découvert en préparant le truc, je m'étais pas trop intéressé à l'histoire de tout ça, que la plupart de ces mecs-là en fait sont devenus plus personne, quoi, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont morts ou qui sont pas morts, mais la plupart sont morts, qui sont morts dans la pauvreté, et puis surtout la plupart en gérant de bar, parce que j'ai appris que c'est comme ça qu'ils faisaient leur concert, ils faisaient des concerts dans leur bar, tu vois, mais certains mecs qui sont vraiment des légendes, tu vois.
Ouais.
Donc, je trouve ça ultra triste. Ouais, et typiquement, ce mec est vraiment considéré comme le Santana d'Algérie. C'est pareil, quoi, il fait des concerts dans des tout petits bars et tout, t'as envie de dire, mais mec, mais c'est une légende, vous vous rendez pas compte, quoi.
Sur le site de ton label, Roi Musique. Je sais pas comment faut le prononcer.
Label.
C'est ton ancien label. Okay.
Ouais, j'ai monté un label.
Ah, mais oui, tu as enchanté maintenant, c'est vrai.
Ouais.
Ouais, exact. Sur le site de ton ancien label, pardon, il y a une citation de toi où tu dis mon but, c'est de faire une musique qui parle aussi bien aux populos qu'aux branchouilles.
Ouais, alors je l'ai pas dit comme ça, mais parce que comme ça c'est dit de façon moche, mais ouais grave de ouf. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est là où évidemment que mon but c'est de faire ça, mais c'est le but de tout le monde. C'est-à-dire que tu fais un truc où en fait tout le monde comprend. Où en fait les mecs qui écoutent de la musique ultra pointue vont pas te cracher à la gueule, et où ma grand-mère qui s'est arrêtée il y a bien longtemps d'écouter de la musique qui sortait neuve dit moi je comprends ce que t'as voulu faire, quoi. Évidemment que c'est le but ultime, et c'est dans ces moments-là où justement je pense qu'il y a des vraies révolutions. C'est où t'arrives avec quelque chose de neuf et tout le monde comprend, quoi. Je pense que c'est un peu le but de tout le monde, non? D'arriver à faire quelque chose qui parle à tout le monde.
Bah, je suis pas sûr. Je pense qu'il y en a qui ont ce truc de plus d'explorateurs et
de la niche, de l'extrême, du radical,
ouais,
etc.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui sont très contents dans leur niche, hein. Mais
c'est pas incompatible, je trouve. Tu peux faire de la musique de niche et vouloir essayer de toucher tout le monde avec ta musique de niche, et c'est encore plus beau quand ça arrive.
Avec la musique de niche, peut-être. Avec la radicalité, ça devient plus compliqué déjà.
Daft Punk, quand c'est arrivé, c'était ultra radical en vrai.
Ouais, ouais.
Et mais c'est un énorme tube.
Ouais, mais là, tu mets la barre haute parce que c'est compliqué d'arriver à un truc comme ça, quoi.
Évidemment. Mais c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre. D'arriver à faire quelque chose où en fait, t'es radical et tout le monde comprend.
Mais je pense qu'il y a une question énormément de chance aussi à ce moment-là, parce que je pense que pour être toucher autant de gens, il faut être vraiment très naturel dans ton époque et être très à l'aise avec ce truc-là. Ça ne peut pas être vraiment calculé, je pense. Donc, il y a un truc un peu qui te dépasse. Évidemment, tu as des efforts, tu as du travail et tout ça, tu vois, mais pour faire Daft Punk, il ne faut pas que être les Daft Punk, il ne faut pas que avoir les skills des Daft Punk ou l'inspi des Daft Punk. Il faut arriver
dans un contexte et un terreau particulier et tout.
Ouais, ah, bien sûr que oui, c'est une rencontre de toi, du temps, des gens. Ouais, c'est, évidemment, c'est que des trucs que tu maîtrises pas. Évidemment.
Et Simon, c'est pas pour te casser ton délire, mais est-ce que tout ça, c'est pas aussi souvent lié à la jeunesse?
Bien sûr que oui, mais c'est encore plus beau si tu y arrives quand t'as 60 balais.
C'est ton espoir.
Bien sûr que oui, toujours. Non, mais bien sûr que oui, évidemment que c'est lié à la jeunesse, que c'est des moments où c'est la jeunesse qui fait que quand t'as une falaise et que t'as de l'eau 25 mètres en bas, tu réfléchis pas, tu sautes parce que c'est marrant, tu vois. Bah, c'est pareil, en fait. Dans la musique, c'est pareil. Évidemment que quand t'es jeune, tu réfléchis pas. Moi, quand j'étais jeune, j'ai branché mes pédales de disto, je les ai mis sur mon synthé et ça a fait un truc. Voilà. Évidemment que c'est lié à la jeunesse.
Et puis une façon aussi particulière de capter ce qui se passe autour de soi et de souhaiter être là-dedans. Et
évidemment. Et en plus, j'ai dit ça à l'époque de mon premier album. Donc, ouais, évidemment que j'avais d'autres idées, etc. Mais bien sûr, c'est évident.
J'ai pas la réponse à ça, mais est-ce que ce serait pas un truc aussi qui est un peu propre à la musique populaire au sens large? Dans le sens où je pense qu'un compositeur classique pouvait être révolutionnaire, changer les choses, comment tu perçois la musique à 35, 40 piges, l'espérance de vie qui a augmenté. C'est pas le même âge d'avoir 35 piges à ce moment-là que là-bas, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, peut-être.
Après, la différence, c'est que nous, on parlait vraiment aussi d'un truc, tu vois, qui va changer presque le monde. Enfin, c'est un bien grand mot, mais tu sais, qui va toucher le grand public, etc. Et là, souvent, c'est lié quand même à une forme d'énergie, d'équation avec son temps, etc. Par contre, fondamentalement, en tant que musicien, être dans une maîtrise de plus en plus accrue, tu vois, de son art, ouvrir son horizon et arriver à faire quelque chose de tellement plus fort avec le temps, avec l'âge, ça j'en suis persuadé, évidemment, c'est clair.
Ouais, mais c'est comme pour la vie, quoi. Vieillir a des avantages et des inconvénients, évidemment. T'es moins dans l'immédiateté, mais t'es plus dans la maîtrise de ce que tu fais, ouais. C'est autre chose. Et c'est très bien comme ça. Mais tant mieux, moi j'ai envie de voir arriver un môme de 18 ans qui aura avalé la musique électronique, le hip-hop, le rock, le machin, le truc, qui arrivera avec sa fougue, avec ses deux VST un peu péraves et ses connaissances rudimentaires en musique, et qui va tout éclater parce qu'il aura fait quelque chose qui est dans l'air du temps, mais qui est différent, quoi. J'ai hâte d'entendre ça, franchement, j'ai hâte de ouf.
Mais un des derniers qui avait bien percé quand même, c'était Stromae. Et genre,
ouais, j'y pensais aussi, ouais carrément.
Qui arrivait un petit peu avec ce truc-là, où il mélangeait vraiment des trucs très club avec du hip-hop et avec des textes un peu variété. Tu vois, t'avais ce côté... Il avait ingéré plein de trucs et il en a fait un truc qui était relativement unique, je trouve.
Je suis d'accord. Ouais,
il l'a beaucoup mieux fait, par exemple, que Eddie DePreto. Si je peux me permettre.
Au-delà même, tu vois, de toucher un peu les différents âges, etc., est-ce qu'il y a presque une... Je sais pas, une sensibilité à la question sociale un peu quand tu fais de la musique, tu penses un peu à ça ou
Moi ouais, de ouf, mais ça ouais. Je pense pas que ça transparaisse dans ma musique, mais ouais, de ouf, c'est une tradition dans la famille, ouais. Ouais, grave, de ouf.
Parle-nous un peu de ça, vas-y.
Ah non mais juste, tu sais, on a une famille hyper politisée, mes parents étaient jeunes, on participait à fonder Libération, tu vois. Donc en fait, on a toujours été hyper hyper social dans la famille. C'est un truc important, surtout. Voilà, ça n'a rien à voir avec la musique pour le coup. C'est juste que voilà, quoi.
Mais est-ce que tout n'est pas politique, finalement?
Alors oui.
On vit dans une société.
On vit dans une sacrée société, mon gars.
Non, mais ouais. Genre, oui, social, oui, ouais, bien sûr. Mais dans ma vie perso, pas dans ma musique.
Oui, t'as pas l'impression que d'avoir une vocation à travers en tant qu'artiste, etc.
Non, ça, je suis pas légitime à ça. C'est dans ma vie privée, voilà. Juste si on pouvait être un peu plus tous, un peu plus social et un peu moins... Enfin bref, on va pas parler de ça maintenant, Darmanin d'émission.
Mais... Let's go.
Bon, c'est le moment, je pense, de passer à la deuxième partie à ce moment-là du podcast. Donc là, on a essayé vraiment un peu de s'arrêter sur ton rapport à ta musique, à la musique électronique, etc., sur ton parcours aussi, mine de rien. Ouais. Il y a un autre élément que je trouve très intéressant, donc deuxième partie... On voit bien que tu cherchais de la liberté, t'as toujours cherché une forme de liberté artistique, etc., à travers ton éclectisme, ta spontanéité. Et ça se retrouve aussi dans la multiplication des activités au cours de ta carrière.
Ouais.
Parce que, pour faire le lien déjà avec la partie précédente, il faut que tu nous parles du live, par exemple. Parce que t'as beaucoup tourné, que ce soit en DJ set, concert. Et moi, je m'interroge un peu toujours sur le live dans la musique électronique. Tu sais comment rendre ça vivant, etc.
Tu vas me dire que je l'ai déjà raconté quelque part, un peu, et sûrement, mais je vais le raconter quand même.
Vas-y.
Je me souviens d'une fois. En fait, mes lives, je les ai toujours faits de manière à jouer mes morceaux. Ça paraît con, mais c'est pas forcément quelque chose d'acquis dans la musique électronique quand on appelle un truc live. Ma première tournée, je l'ai faite avec un batteur, un guitariste, et puis moi j'étais au clavier. Ma deuxième tournée, je l'ai faite avec trois personnes aussi, il y avait que des claviers pour le coup, mais on était trois, quatre même parfois. Ma troisième tournée, je l'ai faite avec des synthés modulaires seulement, ce qui est une bêtise folle parce qu'en fait. C'est fait pour ne jamais sonner pareil. Et moi, le but de faire un concert, c'est d'essayer d'avoir une qualité à peu près égale tout le temps. Donc, c'était vraiment un truc un peu fou et tout. Et je me souviens d'une fois où un mec est venu me voir et m'a dit « Ouais, c'était cool et tout, mais je trouve que tu bouges pas assez sur scène. » Et je lui ai dit « Bah mec, parce que je joue, en fait. » Et il m'a regardé genre « Mais tu racontes quoi ? Qu'est-ce que tu vois ?» Et en vrai, ouais, c'est ce qu'a fait l'EDM aussi, tu vois. C'est genre, il faut. C'est un peu cliché de dire que, voilà, tu passes ton morceau, tu lèves les bras, mais il y a eu un peu de ça à un moment donné aussi, quoi. Et j'ai toujours eu. J'ai jamais voulu faire ça. J'ai toujours eu peur de penser que les gens vont penser que je les arnaque, tu vois.
Ouais.
J'ai toujours voulu faire un vrai live avec des vrais pains, tu vois. Il y a des pains. Un artiste de musique électronique qui fait des pains, enfin c'est con, mais il y en avait plein dans mes trucs parce que voilà, mais c'est comme ça, c'est cool, c'est pas grave, tu vois. Et puis ça sonnait pas aussi gros que sur mon disque parce que j'avais un batteur, et donc voilà. Et puis parce que il avait des capteurs sur sa batterie, mais parfois ça sonnait pas bien, machin. C'est pas grave, c'est cool, c'est la vie, quoi. C'est la musique, c'est comme ça, elle doit être vivante. Et du coup, ouais, mais c'était tellement un bordel qu'au final, je suis un peu fatigué des lives parce que justement, c'était un. Enfin, tu vois, on partait à 9 sur la route. On partait avec des machines hors d'âge. Enfin, ma deuxième tournée, on l'a faite avec des 909, des Juno, des 303, des trucs où tu te disais d'un jour à l'autre, ça ne marchait plus, tu savais pas pourquoi. Fatigant. Du coup, je suis un peu fatigué. Du coup, j'en fais moins. Enfin, en ce moment, tout le monde en fait un peu moins des lives, tu me diras. Mais ça m'a fatigué un peu. Ça m'a fatigué. Et puis, tu sais, j'ai ce rapport avec le live où je me dis, mais c'est pas normal d'être en face de personne. C'est complètement, c'est pas humain en soi de se retrouver face à des gens qui attendent quelque chose de toi, tu vois.
Ouais, non, j'imagine bien que ça doit être éprouvant physiquement, psychologiquement.
Ouais, moi c'est bizarre pour un artiste de dire ça, mais moi c'est pas là que j'ai pris le plus grand kiff. Je suis un putain rat de studio, moi.
C'est pour ça que tu portais un masque au début ?
Ouais, je suis très timide. Je suis très timide, donc il fallait que si je me plante, il fallait que les gens le voient pas sur ma gueule.
Et quand est-ce que t'as décidé de te dire, allez, vas-y, bats les masques?
Vraiment, quand je me suis rendu compte que c'était chiant de fumer au travers. Vraiment. C'est vraiment ça. Et puis, voilà, c'est vraiment ça. Non, et puis, c'était, au bout d'un moment, c'est devenu légion pour les musiciens électroniques de porter un masque et ça m'a gavé de ouf. Tu sais, par exemple, c'est con, hein, mais j'ai pas mangé de viande pendant 15 ans. Et je remange de la viande aujourd'hui parce qu'en fait, ça me gave le prosélytisme autour du véganisme. C'est pareil, en fait. J'ai vu trop de gens avec des masques, ça m'a gavé. J'ai fait, c'est bon, maintenant je vais montrer ma gueule. Voilà.
Tu penses que ça a nourri même si c'était un peu coûteux pour toi le live, j'ai bien compris que ça t'a nourri artistiquement, tu vois, et que les albums que t'as fait ensuite, c'était pas les mêmes parce que t'avais tourné aussi et que t'avais appris des trucs, quoi.
Probablement, parce que écouter de la musique avec une puissance sonore aussi grande que celle d'un Zénith, par exemple, c'est con, mais quand tu fais tes balances et qu'en fait, tu joues ton clavier, celui sur lequel t'es en studio, tu joues ton clavier au Zénith pendant les balances et que tu l'entends aussi fort avec un truc qui est physique, en fait, plus que sonore presque, et ben forcément, ça va jouer. Je me souviens de Diplo qui avait un club dans son sous-sol pour pouvoir écouter ses morceaux. Donc, il avait un système son de club avec un petit club, quoi. Et il écoutait ses morceaux comme ça. Mais je comprends ça très bien. C'est parce que, ouais, forcément, tu joues un peu, t'es en balance, tu joues ton clavier, t'as forcément des idées qui sortent qui sont pas les mêmes qu'en studio, forcément.
C'est stylé, ça, d'avoir son club, pour son club d'expérimentation, quoi.
Ouais, ouais.
Nouveau goal dans ta vie.
En même temps, c'est tellement logique. Il va jouer ces morceaux-là que sur ce genre de système son.
Ouais, bah ouais.
Donc, autant qu'il les teste, voilà, quoi.
À fond.
C'est quand même beaucoup moins con que de le tester dans sa voiture, finalement. C'est ce vieux truc de si ça sonne dans ta voiture, ça sonne partout. Mais c'est faux.
Ouais, ouais, ouais.
C'est complètement faux. Moi, je peux le jurer que dans la Yaris de ma femme, par exemple, ça sonne pas ouf. Mes prods, elles sonnent pas ouf.
Après, il y a l'idée que beaucoup de gens écoutent de la musique dans leur voiture, en fait. Simplement, il faut que ce soit adapté à ce lieu-là. Après, est-ce que ça te dit que ça sonnera bien partout? Ça, je pense pas.
C'est comme ce truc de si ça sonne sur des NS10, ça sonne bien partout. Ça est faux aussi. J'ai acheté des NS10, je les ai rendus 2 jours après. Littéralement.
Mais il y a des trucs comme ça qui tiennent plus du gris-gris que de la vraie technique ou que d'un vrai truc. Tu sais, c'est des trucs qui se passent de producteur en producteur.
Ah, vous avez des gris-gris, vous ?
Moi, non. Moi, j'ai toujours été dans le... Déjà, moi, je fais tout in the box. Donc, genre, j'ai pas de hardware. Merci, Thoman, pour la guitare. J'ai recommencé là, tu vois. Mais sinon, moi, je fais tout genre dans FL avec des trucs que j'ai téléchargés, machin. Et ouais, non, je suis toujours dans le... En fait, j'expérimente et j'ai pas de problème à sortir des trucs que j'estime que c'est pas ouf, tu vois.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Donc, je suis dans ce truc où... Ouais, non, j'expérimente, je fais pas trop ce truc où je vais écouter sur différents trucs. Je me dis, de toute façon, la plupart des gens, ils s'en foutent, tu vois.
De ouf. Donc, la plupart des gens, ils vont écouter ton morceau sur Spotify, sur les écouteurs de leur téléphone, donc en vrai...
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai beaucoup... Pendant 2 ans, pratiquement, j'ai mixé aux earbuds, quoi. Genre des Sony à 15 balles que j'ai acheté à l'aéroport et j'ai mixé sur ce truc-là, tu vois. J'ai quand même des repères visuels. En plus, maintenant, t'as des outils. T'as le Tonal Balance Control de Isotope, tu vois. T'as plein de trucs pour analyser un petit peu. T'as des retours graphiques sur ce qui se passe. Si ça sonne plus ou moins bien et que toutes tes graphiques te disent que t'es OK, je me dis, bon, bah, je suis pas...
Je comprends ça très bien. J'ai les mêmes enceintes depuis 20 ans et je les ai achetées genre 150 balles de casque.
Ouais, voilà.
Ouais, mais tu les connais par cœur, quoi.
Et ouais.
Après, moi, c'est un peu différent parce que, bon, déjà, j'ai absolument pas une carrière d'artiste et j'ai pas du tout votre maîtrise à tous les deux, en particulier toi, Simon. Mais.
Excuse-moi.
Ouais, 15 ans, mec, de carrière, quoi.
Je rigole.
Ça veut rien dire.
Mais par contre, le truc qui est un peu différent, c'est que j'ai une culture d'instrumentiste à la base, de guitariste en l'occurrence. Et c'est vrai que, ayant joué beaucoup sur des amplis guitares, des vrais amplis guitares, et eh ben mine de rien, je peux pas écouter quand je joue de la guitare. C'est juste pour m'exercer. Si je le fais en mode juste avec un simulateur, tu vois, mettre juste des AirPods, je peux pas jouer de la guitare comme ça en fait. J'y retrouve pas mes petits, j'y retrouve pas mes sensations, j'y retrouve pas. Tu vois, déjà certains, ce qui est pas du tout mon cas, mais tu sais, comme ils s'y retrouvent pas déjà juste avec le fait d'avoir un simulateur d'ampli, parce que t'as pas le gros HP, tu vois, qui te balance du grave, etc. Et les sensations physiques, ça. Je peux m'en passer largement. Mais par contre, si je retrouve pas un minimum avec un casque de qualité, des haut-parleurs, etc., un peu, c'est quand même ces sensations d'ampleur, de grave, etc., que j'ai normalement avec un vrai ampli guitare. J'ai du mal.
Mais tu sais, je comprends ça. Hein. Très bien. Je trouve que c'est un des trucs qui se fait pas encore bien. Effectivement, les sensations de la guitare, ce sera jamais mieux qu'avec un ampli, un petit micro devant et tout. Même pas très fort, mais c'est vrai que je trouve que c'est un des trucs qui ne marche pas encore.
Ah, ne marche pas, je trouve que t'es dur parce que rentrer dans un mix, etc., de la simulation.
Rentrer dans un mix, ouais, bien sûr que oui. Oui, si c'est pour mettre une petite guitare au fond du truc, oui, mais alors va faire un album entier en branchant ta guitare sur ton.
Ouais,
sur,
si tu veux vraiment faire un truc de guitariste, tu veux dire?
Non, mais juste si la guitare est prédominante, va enregistrer ta petite guitare, rentrer dans ta Scarlett et avec tes simulations d'ampli, je trouve que là, ça marche pas. Je trouve, mais après, voilà. Je trouve que c'est un des trucs qui marche pas encore.
Il y a un truc, par exemple, qui marche vraiment pas avec la guitare, c'est les guitares virtuelles. C'est ouf, c'est ouf comment depuis des décennies, enfin depuis des années en tout cas, on maîtrise tellement bien les claviers virtuels, les synthés, les reproductions, tu vois, les effets, on maîtrise extrêmement bien, on reproduit plein de trucs de manière absolument incroyable avec le virtuel. Mais alors putain, les instruments à cordes, les
guitares,
main de l'homme, etc.
C'est tout. Tu peux pas reproduire ça, c'est pas possible. Enfin, c'est bien sûr que c'est possible, madame, mais c'est très compliqué de reproduire les micros imperfections. Comme, enfin, tu vois, c'est très compliqué.
Ouais, à fond. J'ai l'impression que c'est surtout vrai pour les instruments à cordes et surtout ça, hein, parce que
les cordes à cordes frottées, effectivement, en fait, il y a tellement de nuances, tellement l'interaction des deux mains, etc.
Le piano et tout ça, ça reste percussif, tu vois, genre c'est pas du tout le même comportement, mais les instruments à cordes, c'est très compliqué, je trouve.
Ouais, très.
Mais s'il y a un domaine dans lequel effectivement il faudrait une amélioration. Après, je connais des mecs franchement qui font des morceaux, tu sais, avec des fausses guitares, etc. Pas des samples, hein, vraiment avec de la modélisation, etc. Ça peut marcher quand c'est. Alors là, en l'occurrence, c'est ce que tu disais, hein, c'est vraiment que ce soit au fond du mix, etc. Sinon, c'est catastrophique, quoi.
Ah bah si c'est ton instrument de base, ouais, c'est compliqué.
Ouais, puis c'est. Après, c'est une esthétique aussi, tu vois. Genre, il y a des gens qui aiment bien le. Là, ici, en plus, il y a vraiment des trucs qui commencent à ressortir avec des sons General MIDI, type Guitar Pro 5, quoi, tu vois. Et c'est réel,
quel
tu vois.
Quel enfer.
Moi qui suis dans le modulaire, il y a même des modules maintenant, General MIDI. Genre, ils sont trop fiers de ça. On m'a présenté ça l'autre jour. J'étais là, genre, bah, mec, j'ai pas envie d'avoir ça, quoi. J'ai fui le General MIDI toute ma life. C'est pas pour m'en racheter un module, quoi. C'est ouf, mais ouais, ils découvrent ça, les nouveaux là. Ils découvrent le General MIDI. Ils sont là, genre, putain, les sons, ils sont ouf. Et non, les sons sont pas ouf. C'est l'enfer sur Terre.
Ouais. Mais il y a ce truc là. Je pense que ça rappelle plein de trucs à plein de gens. Nous, pour nous, c'est peut-être pas forcément des bons souvenirs. Et pour eux, peut-être plus, tu vois.
Bien sûr, ouais, j'ai quelques synthés comme ça où quand t'as des mecs plus vieux qui viennent au studio, ils me disent, mais pourquoi t'as ça, c'est horrible.
Ouais, c'est intéressant.
Ouais. Tu vois, les DX7, pour beaucoup de gens plus vieux, c'est l'enfer, quoi, d'avoir les sons des DX7, c'est trop, mais sauf que ça revient en grâce de ouf, tout le monde met du DX7 partout, maintenant.
Ouais, j'attends la guitare Procore qui va commencer à arriver, je pense, c'est des instrus de rap faits qu'avec ça et tout.
Ouais, personne peut trouver ça beau, sérieusement. C'est pas possible.
Voilà, ça c'est la remarque de vieux con de Salman.
Dis-moi, Simon, outre tes morceaux perso, donc on va parler du live là, etc. Dans l'idée de parler un peu de tes autres activités que tu multiplies, etc. Je crois savoir quand même que la synchro et la compo de commande, notamment pour de la publicité, c'est une part non négligeable de ton travail.
Ouais, c'est ce qui me permet d'être libre dans la musique que je fais pour moi aussi, quoi. J'ai de la chance de faire pas mal de musique pour la pub, etc. Et du coup, ouais, c'est ce qui m'apporte ma liberté d'artiste. C'est ça qui fait que demain, si je veux faire un morceau avec des artistes algériens que j'adore, sans penser à est-ce que ça va marcher, est-ce que machin, je peux le faire. Et typiquement, c'est ce qui m'a sauvé d'avant confinement. Tu vois, comme il y a beaucoup de gens qui ont souffert du confinement financièrement chez les artistes. J'ai fait une campagne Hugo Boss juste avant. Et du coup, ça m'a sauvé, en fait. Pour beaucoup d'artistes, c'est une façon de retrouver la liberté. Alors évidemment, faut te vendre aux marques et faut, voilà.
T'acceptes de rentrer dans le jeu? Comment t'es rentré dans le jeu, justement?
On m'a proposé un premier truc il y a quelques années. J'ai fait une pub pour Nissan, un truc, je crois que c'était Qashqai.
C'est eux qui étaient venus te voir
Ouais. Et puis je me suis rendu compte que du coup, mon label de l'époque me lâchait les baskets. Je pouvais faire ce que je voulais ensuite. Je me suis dit, bah voilà, bien, vas-y, fais de la pub, pas de soucis. Et les trucs sont plus cool que d'autres. Hein. Quand je fais de la musique pour Vitality, c'est de la musique de commande aussi. Mais je kiffe parce que j'ai beaucoup plus de... j'ai carte blanche, quoi. Tu vois, c'est voilà, je fais leur musique et puis voilà. Et pour la pub, c'est plus, c'est moins carte blanche. Puis surtout, c'est les morceaux parfois qui sont existants aussi. Mais ouais, ça m'apporte de la liberté, c'est toujours cool. Enfin, c'est génial pour un artiste de dire en fait, je m'en fous que ça marche ou pas. C'est pas ça qui fait que je vais réussir à manger, tu vois. Donc voilà, je me sens hyper libre pour faire ma musique, ce qui est plutôt cool.
Et c'est pas pour autant une frustration. Enfin, c'est un fardeau quand tu dois bosser sur ce genre de truc ou
non,
tu peux même y trouver
un fardeau,
une forme de plaisir, y apprendre des choses, etc.
Bah, de toute façon, oui, je fais de la musique. Donc, à partir du moment où je fais de la musique, c'est ce que j'aime faire, tu vois. Tu pourrais me demander de faire n'importe quoi, je prends du plaisir à le faire. Puis c'est toujours des enseignements de ouf, tu vois. Et puis, c'est aussi ce qui me permet non seulement d'avoir de la liberté, mais par exemple, tu vois, j'ai sorti un vinyle. C'est con, hein. Quand tu sors un vinyle, parlons financièrement deux secondes, quand tu sors un vinyle qui va te coûter 7-8 balles, on te dit tu le vends 25 balles, tu le vends x3. Quoi, tu vois. Moi, j'ai sorti un vinyle là qui m'a coûté genre 10 balles et je le vends genre 15 balles. Parce qu'en fait, je m'en fous de faire du bénéf avec les vinyles. Parce que j'ai pas besoin. Parce que j'ai la pub qui me permet d'être... Et du coup, ça se répercute sur chez les gens. C'est-à-dire qu'ils ont un super vinyle, pas cher, de super bonne qualité, parce que je m'en fous de faire du bénéf. En fait, je me fous de faire du bénéf sur ma musique.
Ouais.
Et ça apporte de la liberté pour tout, en fait, ça.
Je comprends, moi je suis à fond dans ce modèle-là, je fais de la musique pour des pubs et ce genre de trucs aussi. Et du coup, tout le reste, tous mes autres projets, ça fait qu'en gros, je peux travailler une semaine par mois et faire mon mois en faisant un truc de pub. Et puis, ouais. Et puis après, je fais ce que je veux, je fais sur YouTube. Si j'en ai rien à foutre que mes vidéos elles marchent, j'en ai rien à foutre de faire de l'argent sur Twitch, j'en ai rien à foutre si la tape elle va marcher ou pas. Là, ici, j'écris un roman. Et je fais que des trucs comme ça qui me stimulent et qui, du coup, me nourrissent aussi, tu vois, genre, et te permettent aussi, toi, d'être plus créatif dans ce que tu fais.
Ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, malheureusement, c'est une petite famille, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, pareil, quand tu rentres un peu dans ce truc-là, c'est facile, mais alors, en tant qu'artiste, arriver à se frayer un chemin là-dedans, c'est parfois pas évident.
J'imagine.
Parce qu'évidemment, c'est un boulot qui est bien payé pour peu travailler, finalement.
Ouais.
C'est quoi tes conseils? Est-ce qu'il faut... Il y a des intermédiaires? Un artiste comme ça, tu vois, qui se dit « Putain, j'aimerais bien essayer de... »
J'ai des agences, moi. Je bosse avec des agences qui me connaissent et qui savent qu'ils peuvent faire appel à moi. Mm-hmm. Non, mon conseil, si, il y a des appels d'offres, parfois, sur lesquels il n'est pas forcément facile de tomber, mais s'il y a des appels d'offres et qu'une agence vous fait un appel d'offres, faut y aller, faut bosser bien, vite, comprendre les briefs.
Ouais.
Et puis si jamais c'est bien, les mecs te rappellent. Il faut pas oublier que il faut être rapide et bien comprendre les briefs. C'est un peu technique, mais c'est la vérité. C'est à partir du moment où ils te disent, et les briefs parfois sont un peu chelous parce qu'ils sont faits par des mecs qui ne sont pas musiciens, donc c'est compliqué, tu vois. Mais si tu comprends bien les briefs et que tu bosses vite, ils te rappellent très vite.
Ouais.
C'était déjà arrivé d'envoyer un truc franchement éclaté et que les mecs s'enthousiasment dessus.
Tellement. Mais bien sûr que oui. Évidemment que oui.
Ouais, c'est pas la même exigence, quoi.
Non, enfin, non, c'est, mais c'est, puis c'est surtout, c'est... Aussi. Puis c'est ce qu'ils voulaient. Si ce qu'ils voulaient, c'était éclaté, c'est éclaté. Mais
ouais,
si c'est ce qu'ils voulaient, c'est cool.
C'est pas du tout le même objectif non plus. C'est pas de la musique qui est faite pour être écoutée. Tu vois, c'est de la musique d'atmosphère qui est censée correspondre à un mood, transmettre un message et tout ça. C'est pas du tout censé être stylé. C'est mieux si c'est stylé.
Mais ça apprend à être polyvalent aussi. Hein. Il y a des trucs que je ne savais pas faire il y a 5 ans et que j'ai appris à faire aujourd'hui.
J'imagine que ça n'a rien à voir quand tu bosses sur une BO comme Fury ou Metafocase.
Non. J'ai beaucoup plus de liberté. Et puis surtout, c'est un travail d'échange, là, pour le coup. Je réponds pas à un brief. C'est... je vais parler avec le réal de Moutafoukaz, le créateur. On va se parler de ce qu'il veut, de ce que moi, de ma vision, de sa vision, et essayer de se retrouver au centre. Et ça, c'est hyper cool pour le coup, d'essayer de trouver un truc où en fait tout le monde est content et ça parle à tout le monde.
Ouais,
c'est très cool. Quand ça arrive, ça, c'est ouf. Quand t'as la synergie, elle est hyper bonne, c'est ouf.
À fond. Et puis t'as tout ce truc de. Donc moi j'aime bien d'interprète au sens presque langagier du terme, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un type qui essaye de dire quelque chose en musique, mais il parle pas la musique, et toi tu vas l'aider à le traduire en musique. Ça, ce truc-là, c'est super gratifiant, je trouve.
Grave, typiquement, pour Moutafoukaz, on n'arrêtait pas de me dire « dubstep, dubstep ». Et moi j'étais là « dubstep, mais t'es sûr que tu veux écouter dubstep ?» Et en fait, j'ai compris après que dubstep dans la langue du réal, ça voulait dire autre chose. Et que voilà, et qu'il te traduit ça par des mots. Moi je lui ai dit « mais donne-moi des mots-clés, peu importe que ça soit lié à la musique, donne-moi des mots-clés, des ressentis, des émotions, des couleurs, ce que tu veux, mais voilà ». Je dis parce que si tu me parles en musique alors que tu parles pas musique, voilà.
Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est les pires expériences. Je sais pas pour toi, mais genre des gens qui sont semi-musiciens et qui essayent de te parler en musique, etc. et qui utilisent du lexique pas du tout dans
le
sens.
Il y en a beaucoup.
Ouais, il y en a beaucoup. C'est très compliqué à gérer, tu vois. Parce qu'en plus, t'as l'ego de la personne, tu vois. Tu veux pas la brusquer et lui dire ça veut rien dire ce que tu dis, tu vois. Genre, ça se gère difficilement.
Il veut que chacun ait conscience de ses limites, c'est ça?
Oui.
Bien sûr que oui.
Moutafoukaz, comment tu vois, le processus créatif, comment ça se passe? C'est beaucoup d'aller-retour, si on se rencontre vraiment avec le réalisateur, avec Ron,
ouais.
c'est comment ça se
ouais,
passe?
Ouais, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. C'est en Kama, donc c'est dans le nord, c'est à Roubaix ou Tourcoing, je sais plus, Roubaix.
C'est Roubaix.
Donc, je suis allé voir une, chez eux. Et on a fait une projection un peu privée comme ça du truc. On s'est revu.
T'étais seul
fois,
sur le plan à ce moment-là? Tu sais?
Ouais.
C'est quoi
ouais. Ouais, ouais, ouais.
Ok.
Et on s'est vu plein de fois, ça a pris un an et demi de compo. Et en plus, c'est un animé, donc c'est très particulier parce que souvent la musique, elle, dans un animé, elle va souligner ce qui se passe à l'image, mais de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus obvious et beaucoup plus caricaturale presque qu'un film normal. C'est-à-dire que si t'as un personnage, alors je vais prendre un exemple tout con, mais si t'as un personnage qui se casse la gueule dans un animé, tu vas le souligner en musique. Tu peux le souligner en musique, ce qui est pas le cas évidemment, que si Depardieu se casse la gueule dans un film, tu vas pas mettre un tu vois, ouais. C'est pas ça, ne marche pas quoi. Bah là c'est voilà, donc c'est très particulier de composer pour un animé. Et pour le jeu vidéo, je te prends Fury par exemple, c'est tout con mais c'est pareil, c'est hyper particulier. T'as un personnage qui doit aller d'un point A à un point B concrètement quoi. Voilà, en tout cas dans Fury c'est comme ça. Et la musique, le point A étant son point de départ et le point B étant un boss fight, la musique doit s'intensifier au fur et à mesure où le joueur s'approche du boss fight, sauf que le joueur a aussi la liberté de s'éloigner du boss fight. Donc il va falloir... tu ne crées pas un morceau, en fait. Tu crées des bouts de morceaux qu'ensuite un logiciel va assembler en fonction de la position du héros dans le jeu. Donc,
ça aussi, ça doit être super intéressant à faire, ça.
C'est hyper intéressant, hyper compliqué quand t'as un... Mais tu sais, c'est comme quand tu fais justement de la musique de pub ou des trucs et où parfois, en fait, les mecs ont un montage qui ne correspond absolument pas à quelque chose de musical.
Ouais, à fond.
Et que tu te retrouves à devoir couper une phrase musicale genre dans un truc hyper bâtard et ouais. C'est pour toi c'est enfin moi ça me rend fou, tu vois, je ne peux pas concevoir ça, mais en fait ouais, il faut s'habituer à ce genre de choses quoi.
C'est on avait discuté un peu avec MV de la composition pour le jeu vidéo etc, et on aimerait bien recevoir Olivier de Rivière un jour pour parler un peu justement, je sais pas si tu vois, tu sais qui compose de la musique pour le jeu vidéo et notamment qui apparemment est très calé sur les questions un peu de procédurale, d'adaptation en temps réel, etc., de la musique, et qui est un domaine qui a l'air absolument passionnant. Et c'est effectivement, ça a l'air d'être du taf.
Ouais, mais c'est très... Ouais, j'ai découvert un monde là aussi, là-dedans, mais c'est... La musique de jeux vidéo, c'est très complexe, pour le coup. Très... Puis surtout, c'est une musique que tu peux entendre si toutefois le joueur a envie de ça, tu peux l'entendre pendant une heure et demie en boucle. Donc il faut faire, il faut prendre ça en compte aussi quoi. Si le joueur a envie de passer une heure et demie dans le niveau, bah, il passe une heure et demie quoi.
C'est pas que ça casse la tête non plus quoi.
C'est ça. Ouais.
Vous aviez conscience avec l'équipe des gens qui bossaient sur la BO, toi de ton côté, etc., que ça allait être parce que c'est un putain de succès, Fury.
Mais c'est ouf.
Sur ces dernières années, si on devait retenir une BO d'un jeu, enfin qui est sorti commercialement, etc., qui a été apprécié, c'est celle-là.
C'était la meilleure vente de jeux vidéo de l'année où c'est sorti devant Call of et tout. Non mais c'est ouf. C'est-à-dire que le truc est sorti. Je me suis dit, ah, tiens, marrant, un petit jeu vidéo. Au final, je crois que j'ai fait 30 millions de streams avec mes deux morceaux et tout. Enfin, c'est une musique de jeu vidéo, ça ne l'arrive pas normalement.
Et sachant qu'on n'est pas sur du triple A en plus, Fury, hein. C'est pas non plus le prochain GTA ou quoi que ce soit, quoi.
Non, pas du tout. Donc en fait, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Personne ne s'attendait à ça du tout. Pas même les créateurs du jeu. Hein. Il faut savoir que c'est mes seuls morceaux, en tout cas sur Spotify, je le sais, c'est mes seuls morceaux dont les écoutes sont exponentielles depuis sa sortie. C'est-à-dire qu'en fait ça n'arrête pas d'augmenter alors que c'est sorti il y a 5 ans. Tous les mois il y a de plus en plus de streams, on ne comprend pas cette BO, personne ne le comprend, c'est une anormalité totale. Elle a été faite dans la ville où j'habite en plus, donc voilà, c'était une petite boîte qui a produit ça, ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Donc ouais non mais ça, bah, c'est les hasards, les petits trucs un peu heureux de la musique parfois.
Elle a presque eu plus de succès que le jeu, la BO.
Possible, ouais, possible. Mais tu sais, c'est génial quand t'attends rien. C'est l'inverse de quand tu dis putain, ça, c'est une musique asynchro et qu'en fait, elle fait zéro synchro. Tu vois. Ça m'est arrivé un nombre de fois de ouf où je lui dis attends, là, je t'ai fait un morceau, mon gars, laisse tomber, quoi. Zéro synchro. Et Fury, jamais c'est une musique asynchro. Campagne Hugo Boss mondiale, tu vois.
Let's go.
C'est les hasards de la musique. Et c'est trop cool.
À fond.
Je t'ai entendu dire dans une interview que si demain tu pouvais limite faire que de la BO, ça t'irait. J'ai bien interprété ce que tu disais?
Je sais pas, de la musique, de la BO de cinéma, ouais, ouais. J'adore le cinéma. Je voulais faire réal quand j'étais môme. C'était un truc qui me fascinait. Puis mon père était photographe pour le cinéma et tout. Donc, ouais, C'est vraiment, ouais. C'est... Mais après, est-ce que je veux faire que ça? Je sais pas, je raconte beaucoup de conneries en interview aussi. Tu sais, au bout d'un moment, quand les mecs te posent les mêmes questions, au bout d'un moment, tu fais, ouais, bon, je sais pas, je vais répondre à autre chose. Une fois, j'ai fait répondre quelqu'un d'autre aussi, quand je portais mon masque pour la BBC.
Ah oui, ça c'est bien.
J'ai fait répondre une meuf qui a répondu n'importe quoi.
Ça c'est trop bien. Mais puis aussi, t'as le droit de, genre, penser un truc à un moment, changer d'avis après, et puis revenir dessus.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais ouais, j'ai raconté beaucoup de conneries en plus, parce que ça m'amuse de raconter des conneries. J'en ai pas raconté là, je crois. Mais normalement, j'en raconte toujours un peu.
Bah, il nous reste un petit peu de temps, hein.
Cool.
C'est vrai. Peut-être que c'est aussi la qualité du podcast et des questions qui font.
Salman, s'il répète pas 15 fois que c'est le meilleur podcast, il explose.
Non, mais en vrai, il a raison. Les questions sont plus intéressantes et surtout, j'ai un peu le temps. Et, parce que, tu sais, là, par exemple, j'ai est-ce que je peux le dire, ça, sans me faire défoncer par mon label? Oui, on s'en fout. Là, par exemple, je suis tombé sur, en Angleterre, là, j'ai fait quelques interviews et il y a certaines interviews où, en fait, les coms t'envoient un formulaire de questions qui posent exactement les mêmes à tout le monde.
Oh là là.
Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est chaud, quoi, tu vois. Non. Et les mecs te disent, alors, si vous pouvez me rajouter une bio et des photos IRS et puis juste un morceau, machin. Et en fait, les mecs, en fait, ils prennent ils copient le truc et voilà, ça leur fait leur contenu. Tu fais, putain, mais c'est dur, quoi.
Ouais.
C'est dur parce que, en fait, je m'en fous d'avoir 15 000 interviews quand tu sors ton truc, machin, mais c'est cool quand le mec s'intéresse un peu à ce que t'as fait, parce qu'en fait, on a tous des égos surdimensionnés aussi. quand tu fais de la musique et que t'es un poil public et machin, il faut avoir un égo un peu surdimensionné, sinon t'exploses.
Mais en plus, je trouve que déjà, simplement, c'est une question de respect aussi, tu vois, de dire « Salut, tu existes, quoi ». C'est pas, tu vois, sans aller jusqu'à dire il faut te mettre tous les M&M's de la même couleur dans un bol, et tu vois ce que je veux dire, mais
bien sûr,
genre respecte un peu, tu vois, genre
bien sûr. Ben là dernièrement en Angleterre, je suis tombé sur un site qui avait copié-collé une chronique de mon disque d'un autre site. Alors jusque là tu dis, bon, déjà c'est pas ouf et tout, sauf qu'en fait la chronique, elle concernait mon disque d'avant.
Oh non.
Du coup, en fait, il y a la fin, tu vois. C'est ça. Fait balai.
Let's go. Putain, ils sont forts.
Non, mais oui, non, c'est bien quand on peut parler un peu déjà plus en profondeur et surtout d'autres choses, tu vois. Enfin, et puis de plein de choses, c'est cool, c'est toujours cool. Par exemple, je vais parler de jazz avec Tsugi dans quelques jours. Ça, c'est cool. Trop content.
C'est cool parce que c'est vrai que donc du coup toi tu t'es mis à faire des podcasts, à aller sur Twitch et ça. Sur Twitch tu fais que des lives où tu fais du son, ou tu fais des lives papote?
Non, je fais des lives où je fais du son quand je m'emmerde un peu, puis voilà, puis quand j'ai un peu le syndrome de la page blanche, ça m'aide à aller un peu plus loin, parce que sinon j'ai tendance à faire, bon, vas-y, je vais jouer à la PS, et puis voilà, tu vois. On enregistre des podcasts déjà sur Twitch en live, on les enregistre en live parce que tant qu'à faire, autant proposer un contenu, machin. Et puis tous les dimanches avec ma femme, on mate des vieux documentaires des années 90 et 2000. J'ai un truc un peu d'archiviste, moi, depuis longtemps. J'aime bien garder les vieux trucs. Du coup, on mate ça en live avec plein de gens. C'est cool parce que ça a pris un peu et tout.
Trop bien.
J'aime bien parler de sous-culture sur Twitch. Je trouve ça cool d'aller chercher les trucs en plus, le terme sous-culture est super relou, je trouve, mais en gros de ce qui est pas la grande culture, quoi.
Ouais. De la niche un peu.
Ouais.
C'est marrant, ça. Michel fait bien de parler de Twitch, etc., de ton podcast, donc Discorama. On a reçu d'ailleurs dans ce podcast, et on connaît plusieurs personnes qui sont passées par la création de contenu autour de la musique sur le web pour ensuite créer un pont vers une carrière artistique plus personnelle. Toi, t'as ta carrière d'artiste, et derrière, tu te dis, j'ai envie de créer du contenu sur Internet.
Mais tu sais quoi ? C'est arrivé à un moment où ça marchait moins bien. Avant Fury, en fait, Fury m'a relancé un peu, tu vois. Ça arrivait à un moment où ça marchait moins bien. Et en fait, en tant qu'artiste, t'as deux choix. Quand ça marche un peu moins bien, soit tu t'enfonces dans ton truc et tu fais, ouais, en fait, j'ai rien à changer, c'est comme ça. Soit tu te fais un peu violence, quoi. Au lieu de te dire, ouais, moi j'ai sorti 3 albums, machin. Moi j'ai fait, mon gars, t'as sorti 3 albums, ça marche un peu moins bien. Vas-y, va rencontrer les gens qui t'écoutent. Va te mettre un petit peu en danger. Va composer les trucs sur Twitch, qui était un média qui m'intéressait, moi, parce que je suis assez consommateur de Twitch et tout. Et puis, sors-toi les doigts du cul, quoi. Tu vois, si. Et puis, ça a aussi aidé à ce que ma carrière reprenne Twitch, parce que au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, c'est pas parce que t'es on s'en fout que t'aies sorti autant d'albums, machin, que t'aies fait 182 de tournées, on s'en branle, ça marche moins bien. Si tu veux faire ça encore, faut que tu te prennes en main. J'ai fait ça. Voilà. Je me suis acheté un micro-casque à la con, puis j'ai fait ça.
Et est-ce qu'il y a des trucs, parce que du coup, comme t'étais déjà consommateur de Twitch à la base, il y a des trucs auxquels tu t'attendais forcément, t'avais déjà saisi des codes, etc. Est-ce que t'as eu des surprises vraiment, quand tu t'es lancé dans ce truc-là, à te dire, ouais. Oh putain, j'aurais jamais imaginé ça?
Ouais, il y a un mec qui est venu sur mon stream à l'époque d'un EP que j'ai fait qui s'appelait Globe 3, que j'ai fait en direct, qui est venu sur mon stream. Je butais un peu sur une ligne de basse et le mec m'a dit, bah écoute, moi je suis bassiste. Il m'a dit, vas-y, donne-moi ton mail, je t'envoie une ligne de basse. Il m'a envoyé une ligne de basse, je l'ai gardée, c'est la ligne de basse de mon EP.
Ah, ça c'est trop bien.
Mais voilà, c'est ce genre de truc, et puis en plus, il y a c'est hyper bienveillant en vrai. Quand tu t'accapares pas Twitch parce que c'est bien de s'accaparer Twitch, parce que c'est cool d'être sur Twitch, à partir du moment où tu fais les trucs sans calcul, les gens ils le sentent et ils sont super bienveillants. Genre, j'ai que de la bienveillance. Alors, c'est pas le FC bienveillant que ça non plus. Non, mais c'est vrai, il y a pas de méchant sur mon stream parce que ouais, j'étais pas déjà, je suis venu sur Twitch il y a 5 ans, moi, donc c'était déjà quelque chose, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Donc ouais, à partir du moment où tu fais les trucs sans calcul, je pense que les gens sont bienveillants. Donc ouais, en fait, je m'attendais à ça déjà. Et puis oui, le fait, j'ai eu une ligne de basse, sur Globe 1, qui était le premier de la trilogie, c'est les gens qui ont choisi les noms des morceaux.
Ah, c'est ça, cool, bien, ça.
Tu vois, de laisser les gens choisir. Surtout, en fait, ce qui est génial sur Twitch, c'est tu fais un truc, parfois t'es hyper content, vraiment tu te dis, tiens, c'est cool et tout, et il y a un mec qui va arriver, qui va écouter, sincèrement, qui va dire, pas ouf. Tu vois, c'est con, mais en fait, ça change complètement ta façon de faire de la musique. Alors parfois j'aime ça, parfois j'ai besoin de ça, d'avoir des mecs qui vont me dire, pas ouf. Et parfois, j'ai aussi besoin, je me dis, non, mais là, j'ai pas le mental pour qu'on me dise pas ouf, parce que voilà. Donc parfois j'en ai besoin, parfois j'en ai pas besoin.
Est-ce que c'est vraiment fiable tout ça, dans le sens où quand tu crées une communauté comme ça, il y a aussi un petit effet fan, franchement, qui se crée.
Ah bah bien sûr, j'ai plutôt tendance à écouter les mecs qui vont me dire pas ouf. J'ai plutôt tendance à écouter les mecs qui vont me dire pas ouf que les mecs qui vont me dire c'est génial, continue.
Évidemment. Il y a quand même des mecs qui viennent pour te dire c'est pas ouf. Enfin, il y a ça.
Bah si c'est un mec qui arrive et qui dit salut et qui me dit c'est pas ouf 30 secondes
ouais,
après.
C'est juste être un con.
Mais si c'est un mec qui est là depuis un moment et qui me dit ouais. Franchement, mec, c'est pas ouf, c'est quelque chose que je vais écouter, pas quelque chose que je vais suivre, mais je vais me dire, attends, pourquoi il dit ça? Peut-être qu'il a raison, etc. Encore une fois, être artiste, c'est aussi avoir un ego un peu gros, et c'est toujours difficile d'entendre ça, et c'est toujours difficile de se remettre en question. Mais c'est important de se remettre en question. Tu sais, j'ai découvert un truc il y a pas longtemps où je me suis dit quel était un peu le secret, pour moi en tout cas, pour que ça marche un peu. Et je me suis dit que ça tenait en 3 choses, en fait. Ça tenait en l'air du temps, ce que les gens attendent de moi et ce que moi j'attends de ma musique. Et en fait, si tu arrives à regrouper un petit peu ça, à prendre en compte... Pendant un long moment, moi, ma musique, c'était ce que j'avais envie qu'elle soit, point barre, quoi. Je prenais pas en compte la vie des gens du tout. Et de plus en plus, je prends en compte la vie des gens et je trouve que finalement, ça a un effet bénéfique sur ma musique. Avant, je prenais un malin plaisir à aller vraiment là où les gens voulaient pas que j'aille.
Ouais.
Typiquement, j'ai fait un album qui s'appelait Angst, qui était mon premier, qui était un album de turbine avec des grosses statues, etc. Mon deuxième album, c'était un album hyper typé 80s. Il y a 8 ans de ça maintenant. Les gens m'ont un peu craché à la gueule. Et à ce moment-là, enfin, une partie de mes fans. Et j'avais trouvé ça génial. Je me suis dit, putain, mais voilà, c'est génial. J'ai vraiment fait ce qu'ils voulaient pas que je fasse. Tu vois, j'étais fier de ça. C'est débile.
Et en même temps, c'est aussi une manière de toi préserver une forme de liberté aussi et de dire directement. Parce que si t'as un truc qui marche bien, le risque, c'est de devenir une parodie de toi-même, d'essayer de toujours raviver ce truc-là, de faire le même en moins bien et tout. Quand tu vas à l'opposé, tu t'assures de ce truc-là. Et puis.
Mais il y a une balance à trouver. Il y a une petite balance à trouver, je pense. Je pense aujourd'hui, je l'ai un peu plus trouvé. Tu vois, aujourd'hui, évidemment que je vais encore où je veux, mais je sais aussi ce qu'est l'ADN de Toxic.
Ouais.
Et je sais qu'il faut quand même que j'en garde une partie. C'est important. C'est ça qui font que les gens étaient là. Donc, il faut que j'en garde une partie, que je la réinvente, mais il faut que j'en garde une partie. Si, euh, si après Retour vers le futur 1, les mecs, Retour vers le futur 2, c'était le Père Noël est une ordure, les mecs auraient dit, ouais, alors c'est cool de changer, mais d'où qu'elle est la DeLorean, tu vois. Ouais. Ben voilà, il faut quand même garder un truc, quoi.
Bon, voilà, on a fait un beau petit tour avec The Toxic Avenger, avec Simon. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant un peu, où on peut retrouver ton travail en ce moment? J'imagine c'est Shifted.
Ouais, Shifted sur toutes les applis de streaming et puis sur Twitter si vous voulez me voir dire des conneries, j'en dis tous les jours. Ouais, c'est mon média de prédilection.
Donc c'est l'endroit pour nouvel ça. Le nouvel EP Shifted. Je me demande si quand on va sortir, quand sortira ce podcast. On avait parlé d'une réédition de l'album de Kondo, Soul Inside, la dernière fois, et je crois que ça arrive en ce moment. Donc, allez, moi, je l'ai écouté toute la semaine. Il est trop bien, cet album. Donc, voilà. petit coucou à Kondo, et allez écouter cet album, il est vraiment bien.
Exactement.
Michel, toi, t'as un truc éventuellement...
Reco de la semaine, je pense que j'en avais déjà parlé, mais ouais, Joachim, J-O-A-Q-M, allez écouter Shiznit. Franchement, moi, je trouve ça... Je le survends, évidemment, parce que quand je parle d'un truc, je suis enthousiaste, mais... Moi, je trouve ça légendaire. Je trouve ça trop chaud.
Et évidemment, je n'ai pas particulièrement de trucs à mettre en avant, hormis les vidéos habituelles, etc. Si, je vais mettre en avant quand même, je vais remercier Thoman. Je ne le fais pas à chaque épisode et c'est quand même grâce à eux qu'on fait cette émission.
Envoyez des synthés.
Non, mais comme tu le vois, c'est quand même cool parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut dans cette émission. Ouais, on est libre, on prend le temps, on discute vraiment de musique. Et c'est une chance pour nous de pouvoir faire ça. On est content qu'ils nous accompagnent, voilà. Et puis mettez des étoiles, des commentaires, etc. Vous savez, il faut soutenir. Ouais, c'est les étoiles, c'est sur les trucs de podcast. Parfois, les étoiles, sur Apple Podcast et tout. C'est pour ça. C'est vrai que tu es youtubeur, tu n'as pas la vie. C'est les pouces qui te parlent, tu vois, c'est pas les étoiles.
Mets des étoiles dans mes yeux ou je sais pas.
Ah ouais, non. Bref, c'était un plaisir, comme d'habitude, et on vous retrouve dans 15 jours avec Michel. Bye bye tout le monde.
Salut.